Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Ah, ça me fait tellement plaisir de vous parler ce midi à l'émission On en jase, animée par Jeff Fortin avec Mathias Turcotte.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien. Très bien.
Hey, plein de choses dans l'actualité très intéressantes. Évidemment, on n'aura pas le choix de revenir sur la guerre des tarifs. Qu'arrive-t-il avec ces négociations? Est-ce que les provinces vont tenter un dernier coup pour tirer la couverture de leur bord? Est-ce que Mark Carney va être capable de les garder unis? C'est la grande question. Puis c'est quoi cette entente-là? Là, on ne sait pas encore. Ça fait 48 heures qu'on en parle, mais on ne sait pas encore c'est quoi l'entente. Évidemment, on va parler de politique provinciale parce que même si la campagne n'est pas lancée officiellement, on est en campagne électorale. Les slogans sont sortis 12h30 dans le caucus. Préparez-vous. 418-971-1021. Il y a deux partis politiques qui n'ont pas de slogan encore. La CAQ. Ah non, je pense que je peux plus dire ça. L'équipe Christine Fréchette.
Oui.
Je me corrige. Coalition Avenir Québec, ça n'existe plus. Et également Québec solidaire. Donc, on va jouer un jeu. Puis je sais que vous êtes toujours, toujours, toujours extrêmement créatifs, les auditeurs et les auditrices de Boulevard 102.1. Alors, vous vous préparez. Midi et demi, 418-971-1021. Il faut trouver le meilleur slogan pour la CAQ. Et le meilleur slogan pour QS. Moi, j'ai fait l'exercice, Mathias. J'ai sorti quelques suggestions de mon côté, puis j'ai même demandé à l'intelligence artificielle.
Ah ouais, OK.
Ouais, j'ai hâte, je vais vous proposer aussi des slogans de l'intelligence artificielle.
J'ai hâte de voir ça. Selon toi, est-ce que le slogan de l'équipe Christine Fréchette aura un lien direct avec Christine Fréchette?
Ben, est-ce que s'il l'a pas, je me demande à quoi ils ont pensé les grands penseurs de ce nouveau parti politique.
Tu sais, avec Christine Fréchette. Ah non, on attend tantôt.
Ouais, on attend tantôt.
Je m'en ai donné des exemples.
Ah, ouais, on attend tantôt. Hey, je vais te dire une affaire. C'est le fun, pareil, hein? On voulait se débarrasser de la CAQ, puis on n'a même pas eu besoin d'attendre nos élections. La CAQ s'est débarrassée de la CAQ eux-mêmes. C'est hot!
Ils ont remplacé le parti.
Par équipe Christine Fréchette. Eux autres mêmes se sont rendus compte que tout le monde voulait se débarrasser de la CAQ. Soyez pas bernés, hein, c'est le même parti politique. Je sais que j'ai pas besoin de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Et on va avoir également, justement, parlant de la Coalition Avenir Québec, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Durançon, en entrevue à 13h. Très hâte de lui parler. La CAQ a atteint, justement, l'équipe Christine Fréchette, je vais me corriger, là, je vais devenir bon, a atteint, justement, son objectif de 5000 employés à temps plein de moins dans la fonction publique. Elle critique beaucoup le plan du Parti conservateur du Québec. Donc, on va avoir la chance de jaser de tout ça avec France-Hélène Duranceau. J'ai très, très hâte à cette conversation. Et en fin d'émission, Gabriel Giguère va venir nous parler du délai d'attente dans les urgences. 22 milliards de plus dans le système de santé. On a créé Santé Québec. On attend en moyenne 41 minutes de plus des urgences depuis le début du mandat. Là, je peux dire la Coalition Avenir Québec parce que ça, c'était les mandats de la Coalition Avenir Québec.
Oui, c'est ça. Il y a eu deux mandats de la CAQ.
Ça devient compliqué, finalement. Hein? Quand est-ce que j'ai Coalition Avenir Québec? Quand est-ce que j'ai équipe Christine Fréchette? Dans le fond, quand on parle de la campagne électorale et du futur, on dit équipe Christine Fréchette.
Puis quand on parle de
du passé,
de la méchante ère François Legault,
là,
ça, c'est la CAQ.
Là, on dit Coalition Avenir Québec. Donc, à France-Hélène Duranceau, tout à l'heure à 13h, je vais lui demander en ondes, fais-moi le penser. Les auditeurs aussi, faites-moi le penser. Je vous présente comment? Candidate d'équipe Christine Fréchette ou candidate de la Coalition Avenir Québec?
Et j'ai hâte de voir sa réponse.
Ouais. On va lui poser la question, elle est en interne.
Mais oui.
Elle va pouvoir...
Elle va pouvoir nous éclairer parce que nous autres, on s'en vient perdus.
C'est ça. Exactement. Ah, il y a déjà des gens qui envoient des slogans. Continuez. Merci, Johnny Boy. Évidemment, je regarde celui de Johnny Boy puis je me dis, ouais, peut-être que je vais... qu'on va peut-être des fois enlever un gros mot là, parce que je sais quand on parle de la CAQ, des fois, ça... hein? Ça fait monter les...
Ah, je pense que pour plusieurs slogans, il va falloir censurer, Jeff.
Exactement. Je m'ennuyais du maire Bruno Marchand. Notre chère maire a donné un autre point de presse aujourd'hui, Mathias. On va commencer avec ça, après on fera quelques manchettes. Et là, évidemment, il était tout sourire, il était tout heureux, parce que ce que je comprends, c'est que l'agence Moody a encore donné une bonne cote de crédit à la Ville de Québec.
Ouais, troisième point de presse en trois jours. Puis cette fois-ci, comme tu l'as dit, c'est l'agence Moody's qui a conservé la cote de crédit de la Ville de Québec à AA2. Donc, une très bonne cote de crédit. C'est ce qu'on avait au provincial aussi avant qu'on l'abaisse, il y a de ça quelques mois, là, un peu plus d'un an même qu'on avait baissé la cote de crédit au provincial. Donc, pour une deuxième année consécutive, on réussit à conserver notre cote de crédit. L'agence qui a pointé la stabilité, la prévisibilité que la ville fournissait, la réduction du déficit, le surplus, la hausse de taxes sous l'inflation qui ont tous contribué à ce maintien de la cote.
Surplus, on va le rappeler, qui est dû à des transactions immobilières.
Oui, 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 ça c'est certain.
Là. Exactement.
Mais dans ce cas-là, si les finances de la ville se portent aussi bien que Moody's le dit... La question se pose, pourquoi avoir annoncé une nouvelle taxe sur l'eau et les déchets?
Ouais, pourquoi avoir sorti le bâton, là?
Ouais, ben, la question a été posée au maire aujourd'hui. Voici sa réponse.
Parce que quand vous, en 2026, vous tenez un commerce et vous ne prenez pas la peine de votre carton de le mettre au recyclage, on a un problème. Et c'est tout le monde qui paye parce que vous êtes incapable de faire ce que les citoyens font. 70 % des matières recyclées dans un commerce ne sont pas recyclées. Alors, pourquoi on va mettre le bâton? Parce que c'est pas normal que les citoyens payent pour vous parce que vous n'osez pas, avec vos employés, faire le tri.
Ça, je le disais, et puis il y a Réchant au 418-971-1021. Je le disais lorsque, justement, tu nous as présenté en début de semaine la cote sur le bâton. Je disais, ben, tu sais, les entreprises ont une responsabilité, c'est de recycler. L'exemple du bâtiment dans lequel on est, on ne recycle pas. Ce matin, on a reçu, puis c'est disponible sur blvd.fm, on a reçu Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il demande au maire marchand un sursis d'un an pour que les entreprises, avec la ville, puissent trouver des solutions viables. Parce que ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il y a des entreprises, en effet, qui ne recyclent pas, mais c'est parce que le procédé est trop long. Donc, comment qu'on peut venir réduire le procédé pour qu'il contribue davantage? Pour ce qui est de la taxe à l'eau, Mathias, ça n'a aucun rapport et je t'explique pourquoi Frédéric Boisvert nous en a parlé ce matin. La consommation d'eau par habitant à Québec depuis 10 ans, malgré l'augmentation démographique, n'a pas augmenté. Donc, pourquoi tu taxerais davantage l'eau chez les commerçants si leur consommation par client n'a pas augmenté? Ça, c'est une responsabilité de la Ville de Québec de faire en sorte que ces infrastructures suivent la démocratie, la démographie. Alors, pourquoi on taxerait l'eau chez les commerçants s'il n'y a pas de gaspille en tant que tel? Ça, Frédéric Boisvert n'est pas en accord avec ça, puis je suis obligé de lui donner le point. Il n'y en a pas de gaspillage d'eau chez les commerçants.
Et c'est intéressant le point que tu emmènes parce que chaque fois que le maire est questionné sur cette nouvelle taxe-là, on s'en va utiliser l'excuse du recyclage,
oui.
Mettre de l'avant le recyclage, le carton et autres. Sauf que l'aspect eau, on ne traite jamais dans les explications du maire.
Exactement.
Moi, je m'engage lors du prochain point de presse sur cette taxe-là. Probablement qu'on va avoir un point de presse,
c'est
du moins lors du prochain budget. Je m'engage à poser une question de pourquoi une taxe sur l'eau. On comprend très bien la taxe sur le recyclage. Mais effectivement, il y a une question qui se pose sur pourquoi on le fait sur l'eau.
Ça,
également.
J'ai pas de problème avec la taxe sur le recyclage pour les entreprises qui ne recyclent pas. Parce que là, on est rendu en 2026, à un moment donné, allumé puis arrivé à jour, chère entreprise. Où est-ce que j'ai de la difficulté avec cette taxe-là? C'est qu'on l'a annoncé le 11 février devant la Chambre de commerce en disant on va vous accompagner. On n'a accompagné personne puis on a sorti le bâton cette semaine. Ça, j'ai un problème avec ça. Mais je comprends l'objectif derrière. Cependant, sur l'eau, il n'y a aucun gaspillage à l'heure actuelle. Fait que pourquoi je taxerais les gens là-dessus? Ça m'apparaît un maire qui veut juste aller chercher des revenus additionnels.
Avant de continuer, je veux juste vous mentionner Pont-Pierre-Laporte, direction sud, à la fin du tablier, la voie de droite qui est présentement partiellement entravée en raison d'une panne, puis ça crée un ralentissement en ce moment sur le Pont-Pierre-Laporte, direction sud.
OK, parfait. C'est un événement anecdotique, j'imagine? On en a pas souvent, là,
sur le pont. Ça arrive jamais, ça, Jeff.
C'est ça, c'est
des accidents, des pannes sur le pont, on n'en fait jamais.
On pourrait peut-être envoyer le maire dans le trafic présentement. Il va sûrement nous dire que c'est un événement anecdotique.
Ça arrive jamais, ça.
Non, David qui nous écrit, je suis tannant avec ça, mais si la ville veut économiser, arrêter le gaspillage de sel sur les pistes cyclables l'hiver, c'est mauvais pour l'environnement en plus. Ben, en effet, ça fait partie justement du suivi de cette conférence parce que On a accusé le maire d'être dépensier.
Oui, ben, on lui a posé la question. On lui a dit « Plusieurs personnes vous accusent de dépenser n'importe comment, de pas bien gérer les finances publiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça? » Bien, pour le maire, ces accusations sont complètement infondées.
Ils n'ont aucune preuve. Alors, tout ce qu'ils disent, c'est du vide.
Okay.
On peut pas nous accuser d'être dépensier. On peut pas nous accuser de pas être prévisible. On peut pas nous accuser de pas avoir un bon score financier. Quand Moody's dit ça... C'est comme si on avait sur notre bulletin A+. Quelqu'un peut nous dire qu'il y croit pas, là, c'est Moody's. Si tu crois pas à Moody's, tu crois pas à rien. Moody's nous donne un excellent bulletin. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle des preuves.
OK, mais pourtant, il y a des endroits, Mathias, où on pourrait couper. Par exemple, justement, quand on parle, tu avais fait un excellent travail cet hiver du déneigement des pistes cyclables qui coûte $1 million. Mais il y a des pistes cyclables qu'il y a 4 cyclistes qui passent par journée. On pourrait couper là-dedans?
On pourrait faire le choix de couper là-dedans,
on
effectivement.
On pourrait faire le choix de couper là-dedans. Autre exemple, on vient d'augmenter complètement la subvention là, du Festival Kaléidoscope, 400 000 pour le jour de l'an. On aurait pu faire différent? Accorder moins d'argent?
Forcément, là. Puis du côté de l'opposition, ça arrive souvent qu'on dénonce justement les choix que le maire fait.
Ben oui!
Même du côté de la population, souvent ça se fait sur le plan environnemental beaucoup quand le maire prend des décisions coûteuses du côté de l'environnement.
Exactement. Donc, pourtant, il y en a des dépenses. On pourrait revoir certaines dépenses. Puis, comme les arts, la culture, hein, ce qui fait triper le maire, là, les subventions là-dedans, on est-tu revenu sur de quoi de spécial? Rappelle-moi quelque chose qui était sorti vers le début de l'été.
Oui, bien c'est ça. Mettons qu'on dit qu'il y a une bonne gestion budgétaire, ça on peut pas nier, puis la cote Moody's en est une preuve. Du côté du budget de la Ville de Québec, c'est bien géré de façon objective. Le maire s'est toutefois fait questionner sur justement ses priorités en termes d'investissement d'argent. Puis on a ramené l'exemple du fameux canard géant qui coûterait 200 000 $ qu'on emmène dans le fleuve.
Que là, on va voir
2027.
Sur le fleuve. Un gros canard géant. On va penser que le fleuve est notre bain. Puis qu'on est tous redevenus des petits-enfants. Un 200 000 $ pour un canard géant, mais le maire n'est pas dépensier. OK, on l'écoute.
Vous pourrez demander aux artistes, c'est un symbole de déconnexion. Vous pourrez demander aux gens qu'on soutient dans le communautaire, c'est un symbole de déconnexion quand on investit dans un patro.
Non, mais on est sur le canard de bain. Là.
Oui, mais après ça, vous pouvez prendre chaque dépense. L'opposition ne la ferait pas, celle-là. On n'a pas des chiffres touristiques par hasard de cette nature-là, de cette hauteur-là, parce qu'on fait rien. Là.
Donc, pour être clair, vous avez fait vos calculs. Le canard, il a fait ses preuves ailleurs.
Oui.
Il va tirer du monde dans le Vieux-Québec.
Il va tirer du monde dans le Vieux-Québec. Il va rester, il va faire de Québec une ville qui est en tête de liste des meilleures destinations au monde.
Hey, faut-tu être déconnecté pour penser qu'un canard sur le fleuve géant à 200 000 va attirer du monde dans le Vieux-Québec? Le Vieux-Québec déborde déjà, puis le Moses de canard, il est pas là.
On s'en va probablement vers une autre année record côté tourisme à Québec.
Puis on n'a pas le canard. Hey, payer 200 000 $ pour un canard qui va être sur l'eau. Puis là, ils disent non, mais c'est un symbole de déconnexion. Ouais, moi, ça me fait reconnecter en crime avec mon compte de taxe, ça.
De voir un canard à 200 000 dans le fleuve.
Un canard à 200 000. Tu peux pas défendre ça. C'est de l'indéfendable. C'est des lubies. TPO qui mentionne, je peux avoir une excellente cote de crédit selon ma banque car je rembourse mes affaires, mais tout en ayant des dépenses fofolles. Ben, en effet, puis la structure de la ville n'a pas diminué depuis l'arrivée de Bruno Marchand. Le RTC est en déficit et en dette exponentielle. Puis ça appartient à la Ville de Québec. Sous des paliers, justement, la taxe à l'immatriculation de 60 $ qu'on nous a ajouté justement pour nos dépenses fofolles dans du à vélo, qui fonctionne très bien au centre-ville, mais qui a ses preuves à faire dans les banlieues.
Non, mais Jeff, le maire te répondrait puis dirait « Oui, mais on comprend que le canard, c'est pas à lui tout seul qui attire tout le tourisme, mais c'est en continuant d'investir dans des choses comme ça. » Qu'on obtient des années records.
Exactement. On a une autrice qui se dit non, il me niaise, là. Un canard à 200 000. Non, ça va arriver. C'est en quelle année? Non, c'est l'année prochaine?
C'est l'été prochain.
L'été
là,
prochain.
Qu'on va avoir,
l'été prochain, dites-vous que la Ville de Québec, au niveau touristique, est sauvée. On aura un canard géant à 200 000 $ qui va naviguer sur le fleuve. Ça vous parle, hein, ça, citoyens de Québec qui payez vos taxes? Vous aimez ça, cette défense-là. Je suis convaincu, 418-971-101. On n'a pas trouvé d'auditeur encore qui était pour le canard jaune.
Non, on a David qui dit que le déneigement des trottoirs est dégueulasse, puis en attendant, il entend parler d'un canard, oui. Puis qui semble quelque peu frustré par ça.
En effet.
Mais aucun auditeur qui dit qu'il va se diriger vers le Vieux-Québec pour observer le canard.
C'est vrai, tu sais, le Vieux-Québec est déjà beau dans la façon qu'il est. Il a déjà des événements qui attirent des gens dans le Vieux-Québec. J'ai qu'à penser au Festival d'été. Les grands feux l'Auto-Québec, les fêtes de la Nouvelle-France. Donc, bref, on n'a pas besoin de dépenser 200 000 dans un
canard. Mais là, Jeff, attends un peu. Et de la vision. Quand le Vieux-Québec va être piéton uniquement et qu'on va avoir le gros canard...
C'est vrai!
Tu sais, pour la première semaine du mois d'août, nos hôtels ont eu un taux d'occupation de 96 %. Une fois que le Vieux-Québec va être piéton et qu'on va avoir le gros canard, peut-être que ça va être 100 %, là.
T'as raison. T'as raison. Peut-être que c'est moi qui critique trop. Puis en même temps, ben, il a raison, le marchand. T'sais, ça... Quand je vais voir le canard, ça va me permettre de me remettre dans mes souvenirs d'enfance, de me rappeler à quel point mes parents ont pris soin de moi, que j'étais heureux, me rappeler que j'ai pris mon bain avec mon frère. Oh, je veux mon canard.
Bon, on termine avec un dernier extrait. Si les finances de la ville vont si bien, encore une fois, pourquoi demander que la fiscalité des municipalités soit un des enjeux principaux aux prochaines élections? Je vous laisse entendre le maire à ce sujet.
Le plus grand défi qu'on a, il est en termes d'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, présentement, on a un déficit d'entretien des infrastructures. À Québec, le déficit est moins grand que dans d'autres grandes villes. On est chanceux. Mais on a quand même un déficit d'infrastructure. On vous avait présenté le bulletin des infrastructures à travers notre bureau de gestion des actifs. Si on ne veut pas passer aux générations futures un fardeau, la ville ne peut pas faire ça seule.
Ouais. Mais c'est justement, à la responsabilité de la ville, ça, le déficit des infrastructures. Puis ça appartient pas juste au maire Marchand, ça appartient aux administrations précédentes aussi. On a dépensé dans des canards.
Ouais, mais...
on dépense dans plein de choses qui, au bout du compte, rapportent peu aux citoyens et on n'a pas mis assez d'efforts dans nos infrastructures. Les villes ont eu le même comportement que les gouvernements de palier supérieur, dont la CAQ, qui a doublé le déficit d'entretien de nos infrastructures en 8 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, à plus tard, on va couper des rubans.
Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas eu assez de vision. Par contre, de mettre le seul fardeau aux villes sur les infrastructures municipales, je pense que ce serait malhonnête. Je pense que ça reste, oui, un manque de vision de la ville par le passé, mais c'est un fardeau partagé qui est avec le provincial pour le déficit des infrastructures municipales, par contre.
Ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est où notre plan de retour à l'équilibre des infrastructures? Il n'est pas là. Ben, pourquoi la ville en fait pas?
Ben, du côté de la ville, on en a fait un plan sur 10 ans. Il manque juste 3,5 milliards du provincial.
Ouais. Mais tu sais, à toujours aller quêter au provincial, on pourrait aussi regarder dans notre propre cours.
Puis d'essayer de trouver ce 3,5 milliards.
Ben, on ne trouvera pas 3,5 milliards au niveau de la ville, mais on préfère un effort additionnel, selon moi. C'est ça, là, le grand défi. Le grand défi du prochain gouvernement au provincial, ça va être le déficit d'entretien de nos infrastructures.
C'est sûr.
Mais il faut que les villes aussi y contribuent. D'accord, il faut que le provincial y contribue aussi, mais il faut que les villes y contribuent. Parce que souvent, ben, les villes ont fait comme Québec, ont fait du développement, puis c'est bien correct pour attirer plus de gens, attirer plus de travailleurs, avoir une économie justement qui roule. Mais on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire est-ce que nos infrastructures vont tenir? On n'a pas mis d'argent là-dedans.
Non, puis là, c'est le moment de changer complètement la façon de faire les choses. Ça. On n'a pas le choix. Là.
On a frappé le mur. Marco, qui nous mentionne, je suis pas d'accord avec le canard, mais il va nous coûter quoi? 3$ par personne. C'est sa folie la moins chère. Ouais, vu de même, Marco, tu me réconfortes un peu. Mais tabarouette, un gros canard sur le fleuve. Coudonc. Alors, merci beaucoup, Mathias, de nous avoir rapporté le tout. Vous, même si Moody's donne une bonne cote de crédit à la ville de Québec, trouvez-vous le maire trop dépensier? Trouvez-vous que le maire a les bonnes priorités pour vous quand il a dit cette semaine qu'il allait combattre encore une fois les changements climatiques, même si les partis politiques, provinciaux, campagne électorale reculent sur le sujet? 418-971-1021. Mathias, quelques manchettes avant de passer une pause et au caucus avec Antonine Iaccarini.
Le ministre responsable des négociations Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, qui retourne à Washington aujourd'hui pour rencontrer le représentant au commerce Jamieson Greer. On retourne négocier à Washington parce que je vous rappelle, Donald Trump a dit qu'un accord entre le Canada et les États-Unis était conclu. Sauf qu'il a donné un sursis de 3 jours pour finaliser le tout. Eh bien, le temps continue de rouler. Il reste donc seulement 2 jours pour conclure, pour finaliser cet accord-là. Donc, on intensifie encore une fois les négociations. Pendant ce temps-là, la première ministre Christine Fréchette qui a eu un appel avec le premier ministre canadien Mark Carney ce matin. Du côté de Mme Fréchette, on semble avoir été éclairé sur quelques points, ouais. Mais un peu plus tôt en conférence de presse, on ne voulait pas trop se lancer ou encore commenter ces différents points.
On garde vraiment ça à l'interne à l'heure actuelle.
Puis on dit qu'on va devoir analyser tout. J'en profite pour revenir sur ce qui est ressorti un peu de l'entente Canada-États-Unis qu'on aurait. Du côté américain, ce serait une réduction des tarifs sur l'acier et l'aluminium. On passerait de 50 % à 25 % la surtaxe à l'automobile de 25 % à 15 % Du côté canadien, ce qu'on saurait pour l'instant, c'est qu'on enlèverait la restriction sur l'alcool américain, donc on remettrait l'alcool américain sur nos tablettes.
Mon bon vieux Jack Daniel va être de retour.
Et on retirerait notamment aussi les contre-tarifs canadiens sur l'automobile. Pour ce qui est de la gestion de l'offre, Donald Trump qui dit que les tarifs pour les agriculteurs prendront complètement fin du côté américain. Mais ici, Dominique Leblanc dit la gestion d'offres va
ouais,
pas
puis
être
Jamison
touchée.
Greer le dit aussi, le négociateur en chef pour les Américains qu'on ne touchait pas à la gestion de l'offre. Il l'a même dit en français, imagine.
Donc, normalement, de ce côté-là, ça devrait aller aussi. On devrait continuer d'avoir plus de détails au cours des prochaines heures, prochains jours. Et je termine avec le Parti libéral du Québec qui lancera enfin sa campagne électorale le 27 août prochain, ici, dans la capitale nationale. Le Journal de Québec a appris que le parti a prévu placer son quartier général, d'ailleurs, ici, encore une fois, dans la capitale nationale, région qui s'annonce être fort pour la prochaine élection. La CAQ qui a aussi installé son QG. On a appris par le même article, le slogan du PLQ, rassembler, réparer, bâtir.
Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, 418-971-1021. On se prépare dans quelques instants avec Antonine Iaccarini pour trouver des slogans pour la CAQ et Québec solidaire. Pauvres autres, ils l'ont pas encore donné, leur slogan. C'est peut-être parce que leurs grands penseurs sont pas capables de le trouver. Donc nous, à Boulevard 1021, on va trouver le slogan. En attendant, on revient sur le grand canard avec Alexandre qui nous écrit « Je sais pas, vous focussez sur le fait que c'est un canard. Je crois que la ville doit investir dans ce genre de choses pour la garder attrayante. » Peut-être pas un canard, mais bon, est-ce que ce serait le même discours pour une statue de joueur de hockey? Ben, au moins, la statue, elle resterait permanente.
Ouais,
ben le canard va partir.
Ben, encore une fois, ça dépend du look de la statue, là. Si on c'est parle ça. D'une statue qui ressemble pas à grand-chose puis qui coûterait 200 000 $
ouais.
Je pense qu'on aurait un discours similaire. Ouais, c'est ça.
Et je termine avec un texto qui est rentré. Ça aurait été un beau montant pour contrer l'itinérance. Ouais, c'est ça. Quand on parle de priorité de dépenses, le gros canard, il aurait pu passer dans autre chose. Caucus avec Antonine Iaccarini qui suit après cette courte pause. À vos textos, faut trouver des slogans pour la CAQ et Québec solidaire.
Qu'est simplement... Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 1021.
Le caucus avec Antonin Iaccarini, nouveau rendez-vous de 12h30. Gars, comment il est en Mathias, j'ai hors d'onde. Hey, on va partir avec les slogans. Le monde est déjà dégainé. Il nous en a envoyé. Il me fait signe de la circulation.
Ouais, ben là, c'est pas... C'est pas moi qui décide ça, Jeff. C'est pas moi qui est déplaisant. C'est le fait qu'on n'aille pas encore de troisième lien, je dirais plus.
Et voilà!
Bon, ben je commence justement, vous l'aurez deviné, où que je commence Pompierre-Laporte. Un peu plus tôt, il y avait une panne.
Événement anecdotique, une panne sur Pompierre-Laporte. Ça, Mathias, n'oublie pas, c'est anecdotique.
Ça arrive jamais une panne sur le Pompierre-Laporte.
Jamais! Donc, première fois que j'entends ça dans la circulation dans mes 4 ans de radio à Boulevard.
À la fin du tablier, en direction sud, la voie de droite qui était partiellement entravée, maintenant c'est réglé, sauf que ça crée un bon ralentissement. Là, sur Henri IV, ça remonte jusqu'à Versant Nord en ce moment, que c'est au ralenti. Sur Duplessis, ça remonte jusqu'à chemin Sainte-Foy. Donc, armez-vous de patience si vous êtes dans le secteur. Ou si vous mentionnez Capitale direction Est, hauteur Robert-Bourassa, il y a un ralentissement. Alors, ancienne direction Sud pour accéder à Capitale, même chose. Et sur la rive Sud, juste vous rappeler qu'entre Taniata et Président Kennedy, c'est très difficile actuellement.
OK, on a déjà des slogans qui sont sortis du côté de la campagne électorale. On a le Parti conservateur qui a dit « Oser pour vrai », que j'ai trouvé très bon.
Moi aussi, je trouve ça bon.
Vraiment, parce que je trouve que ça représente bien le Parti conservateur.
Ben, c'est ça un bon slogan. Il faut que ce soit punché, que ça marque l'imaginaire, puis il faut que ça ait un lien avec ton offre politique puis la personnalité de ton chef. Mm-hmm. Quand on prend le mot « oser », ben, ça fait un lien avec l'audace. Éric Duhaime veut remettre en question des vaches sacrées, il veut couper 47 milliards de dollars dans la fonction publique.
Exactement.
Il brise des consensus, donc je pense que ça, c'est vraiment thématique. Et pour vrai, oser pour vrai, c'est en référence, je pense, à son désir d'incarner l'honnêteté, l'intégrité. Oui. C'est un peu l'image qu'il veut dégager.
Je le voyais aussi comme aller chercher cette fameuse prime à l'urne qu'on n'a jamais. Tu sais, oser pour vrai, vous allez être rendu à faire le vote. Ah, voyez, oser, cocher, Parti conservateur du Québec.
Ouais. Très bon.
J'aime bien celui du Parti québécois aussi, le choix de la confiance.
Attends, Jeff, tu vas trop vite. Parce que, par contre, chaque slogan a toujours un risque où on
t'as
peut tourner
raison,
en décision.
Vas-y donc en risque.
Celui de oser pour vrai, t'as juste à rajouter un L avant. Qu'est-ce que ça donne?
Loser pour vrai.
Il y a pas mal de monde qui l'ont sorti.
Ah!
Il y a une belle caricature dans la presse.
Loser pour vrai. J'aime ça. J'aime ça quand les gens se moquent un peu des slogans.
Ben oui.
OK. Le Parti québécois, le choix de la confiance. Moi, je le trouve très bon aussi parce que je trouve que ça représente bien Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef.
Ouais.
Il se présente toujours avec confiance, peu importe son argumentaire. Bon, il est un peu saupoulé des fois, puis marabout, mais il est confiant de réaliser la souveraineté du Québec, même si c'est à 30%. Et il va dans le premier mandat avec ça. On fonce, donc le choix de la confiance. J'aime beaucoup, je trouve que ça colle beaucoup au Parti québécois, puis ils sont en train de se montrer une méchante belle équipe en plus.
Oui, les réactions seront bonnes face à ce slogan-là. C'est sûr que quand t'aimes déjà un parti, tu trouves que le slogan est bon. Puis quand t'aimes pas un parti, le monde dit que c'est pas bon. Mais encore une fois, on le décortique. Choisir, le choix, c'est très lié au PQ.
C'est très lié au vote aussi, évidemment.
Référendum, on se choisit, on choisit notre destinée. Tu sais, tu vois un peu la thématique.
On choisit d'être un pays.
Puis la confiance, ben, c'est très lié à son branding à lui, parce que lui aussi, un peu comme Éric Duhaime, mais c'est sûr qu'ils ont chacun leur différence, mais je trouve qu'ils ont ça en commun. C'est on dit les choses telles qu'elles sont, quitte à des fois que ça ne plaise pas, mais vous pouvez me faire confiance parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.
Et sur son autobus, c'est le choix de la confiance. Pourquoi ne pas avoir mis choisir la confiance? Je ne sais pas si c'est juste
vrai.
Moi, mais je trouve que c'est
meilleur,
plus punché.
Ouais. Ton slogan, que quand j'ai envoyé mon petit plan tantôt, je me suis trompée puis j'ai mis ça parce que moi, je trouve ça meilleur.
Vrai.
Ça coule plus, choisir la confiance.
En effet.
Bon, là, après ça, il y a toutes sortes de théories en marketing politique là, sur est-ce que tu mets le verbe à l'infinitif? Qu'est-ce qui est le plus punché, qui pousse à l'action? Moi, je préfère le verbe à l'infinitif.
Moi aussi.
Mais écoute, je trouve que c'est un slogan qui est bien correct. La confiance, c'est un terme récurrent au PQ. Ça a été un slogan de Lucien Bouchard, notamment. Moi, j'ai participé à la course à la chefferie de Véronique Yvon, puis elle, son slogan, c'était « rétablir la confiance ». Donc, il y a quelque chose là qui est assez récurrent.
Y a-t-il un angle mort pour celui-là?
En fait, ce que j'ai beaucoup lu sur les commentaires, parce que je l'ai publié hier sur mes plateformes, puis je voulais avoir l'avis des gens, c'est que les gens disent, la confiance, ça se gagne. Tu peux pas dire, yo, je suis de confiance. Tu dois l'incarner.
OK, ouais.
Mais dans la vie, je pense que tu es mieux de dire clairement ce que tu veux incarner.
Slogan du PLQ. Ouf.
Vas-y.
Rassembler.
Oui.
Réparer.
Oui, papa.
Bâtir.
Yes.
Ça me dit rien.
Bon. Moi, j'aime bien les triptyques dans la vie. J'aime ça, les choses divisées en trois. Je trouve ça esthétique. Mais là, ça a été vu et revu, là, les triptyques en politique. Là, je ne les ai pas sortis, là, mais j'en ai vu plein. Il y a quelqu'un qui m'a fait penser que ça ressemblait à bâtir Maison Canada un peu.
En effet.
Ça pourrait effectivement y ressembler.
Non, mais
parce
qu'il n'y a pas de fil conducteur, je trouve.
Ben,
rassembler,
moi, je trouve pas, par
réparer,
exemple.
Bâtir. Non, tu trouves qu'il y a un fil conducteur?
Là, ça, je trouve c'est la force de ce slogan-là, qui n'est pas, à mon avis, le plus punché. Mais c'est qu'il y a un peu comme le programme politique dans son slogan. Ce que Charles Milliard dit, c'est « moi, je vais arriver, puis là, je vais réparer. » En fait, je vais commencer par rassembler face à un Québec qui a été divisé par la CAQ. Hein, on sait, là, les nationalistes, ils divisent, là, ils sont pas fins. Moi, je suis rassembleur, je suis gentil. Ensuite, on va réparer ensemble tout ce qui a été brisé par la CAQ. Et ensuite, on va bâtir sur des nouvelles bases. Donc, sur le fond, je trouve ça quand même
logique, cohérent.
Sur la forme, on a vu ça tellement de fois.
Oui, puis c'est vrai que si on avait tenté de l'associer au chef, ça aurait été « il est présent, il sourit ».
Au moins,
ça
n'aurait
peut-être
pas
pogné. Oui, c'est vrai.
Bon, hein?
Ah, au moins, c'est ça. Bon, là, la CAQ Et Québec solidaire tarde à présenter leur slogan.
Est-ce qu'ils tardent, là?
Ah, ils tardent.
La campagne n'est pas commencée. On est très impatients. Là. Je t'entendais tantôt, Mathias, qui disait « Le PLQ va enfin lancer sa campagne. » Les autres n'ont pas lancé leur campagne.
Non, mais dans le sens, le PLQ, c'est vraiment un silence radio. On se pose même la question, est-ce qu'ils savent qu'une campagne s'en vient? Tu sais, aucune communication, annonce, absolument rien.
Bon, on me dit que j'ai reçu un courriel. Tout à l'heure, Charles Milliard va faire une annonce au niveau économique PME demain 10h15. Bon. On va essayer de l'avoir dans On en jase entre midi et 14h.
Oui, faciliter la vie aux PME. Hein, je pense quelque chose comme ça. Fait que j'ai hâte de voir. Mais ça, enfin des annonces sur le terrain sur lequel le Parti libéral peut gagner des points.
Normalement performer.
Bravo.
Je suis très d'accord avec toi. Bon, alors là, écoute, il tarde. Voilà, la CAQ, QS, là. C'est long. Bon, sortez-moi votre slogan, amusons-nous un
la
peu.
La CAQ, ils ne peuvent pas le sortir tant que ça avant d'avoir lancé la campagne. Ouais,
là,
parce qu'ils sont au gouvernement.
Oui, puis là, même là, t'sais, on dit la CAQ depuis tantôt, mais c'est rendu équipe Christine Fréchette. Là, on se trompe. Tantôt, moi et Mathias, en début d'émission, c'est dit quand on parle du passé, on dit la CAQ.
Oui, Kevin nous écrit ça d'ailleurs. La CAQ, il n'y a pas de CAQ. Mais il y a l'équipe Christine Fréchette,
exactement. Ça pourrait être un bon slogan, ça. La CAQ, il n'y a plus de CAQ.
Plus de CAQ.
Plus de CAQ. Vive équipe Christine Fréchette.
Dehors la CAQ.
Ouais.
Vive Fréchette.
Ah, il pourrait s'auto-saboter de même.
La CAQ est morte. Vive Fréchette.
J'adore. Jusqu'à présent, on a des bons slogans aussi pour la CAQ. La CAQ, c'est pas dans le sac.
Ah, ça rime.
J'aime ça. Vraiment. Hein, c'est très créatif. Ici, pour la CAQ, on a un pont vers l'avenir. En effet, ça pourrait très bien fonctionner.
Écoute, on a fait aussi un exercice comme ça avec les noms de troisième lien.
Oui!
Il y a, avant la fin de la saison. Puis il me semble que le pont vers l'avenir, on l'avait aussi.
Oui, on l'avait aussi. On avait celui qui avait gagné, c'était le troisième rien.
Oh, oui, le troisième rien.
Le troisième rien.
OK. Nouveau nom, même vieux fond.
Oui, hey, ça, j'adore ça. Et il y a Éric Duhaime aussi qui a sorti son slogan pour la CAQ hier en conférence de presse. On l'écoute.
Comme l'a si bien dit le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, ça devrait être le slogan de la CAQ, d'ailleurs, je leur suggère, avec Christine, on se ruine.
Ça rime aussi.
Ça rime aussi. Hey, je te dis, il est créatif,
c'est Éric Duhaime.
Ouais, en effet. Ben là, ouais, tu trouves ça trop personnel, mais t'oublies que c'est l'équipe Christine Fréchette.
Ben oui,
t'as raison. C'est
pas la CAQ. T'as pas le choix d'avoir un nom qui fit avec ton nom de parti, là.
Ben, c'est ça.
Dans ce cas-ci, c'est Christine Fréchette.
C'est la première ministre, on dit le nom de famille.
OK.
Ouais. Pour la Christine. T'as raison, ça l'était fait reprocher en plus.
Oui.
Ah, il avait dit ma tante Christine parce qu'il disait mon oncle François. T'as raison. Un pont ou pas pour la CAQ présentement qui est sorti. Le seul slogan qui peut sauver la CAQ. On n'est plus la CAQ en majuscule à la Donald Trump. Sur Truth Social, c'est Jean-Pierre qui nous envoie ça.
C'est bon.
J'adore ça. Moi, j'en avais sorti quelques-uns aussi là, pour la CAQ. Mais je m'étais inspiré du gagnant du troisième lien, le troisième rien.
Oui.
Pour dire la troisième rien en voulant dire que c'est une troisième voie qui ne sert plus à rien, c'est rendu le Parti libéral.
Oui.
Hein, tu comprends? La coalition disparue.
Ah, la société de la coalition disparue.
Oui, il y a beaucoup de gens qui quittent présentement la CAQ. Donc, dans la thématique équipe Fréchette, j'y allais avec équipe dissoute. Non, mais là, on va dire les vraies affaires. En avez-vous, vous, de votre côté, là, les autres sœurs continuent à écrire? Là.
Moi, c'était trop long, là, mais moi, j'avais « Vos paupières sont lourdes. Vous avez tout oublié. » Ce serait bon. Il pourrait amener des spécialistes d'hypnose partout où est-ce qu'ils vont. Ou, tu sais, comme dans Men in Black, là, avec la petite lumière, comme « Piou! » Ça fait tout oublier.
Oui! Ah oui, c'est ça! Leur pub.
C'est pouf! Piou! Pouf!
Piou! Pouf!
Bravo, j'aime
c'est
ça.
C'est parti.
C'est plus court.
Un nouveau visage, le même mensonge qui est sorti ici par texto. Donc, on vous salue. Bref, la CAQ n'est pas très créative. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me sortir des slogans pour la CAQ. J'en ai retenu deux. Je suis pas sûr des deux, mais c'est pas grave. C'est deux possibles parce que je suis pas sûr que ça représente tant la CAQ. Je trouve que l'intelligence artificielle, on va parler de QS après, a
merci
vraiment...
Merci de prouver que ça sert à rien, l'intelligence artificielle. Vraiment... Je suis contre.
Oui, l'intelligence artificielle, moi aussi, je suis contre. Mais du côté de Québec solidaire, on avait bien ciblé qui était Québec solidaire. Mais du côté de la CAQ, on a eu de la misère parce que on m'a sorti un « bâtir le Québec de demain aujourd'hui ».
OK.
Je pense que ça représente vraiment les 8 dernières années de la CAQ. Fier de notre Québec tourné vers l'avenir.
C'est terrible.
C'est vraiment terrible.
Donc, ouais, on a encore besoin des humains. Les auditeurs sont bien meilleurs.
Oui, les autres sorts sont bien meilleurs. Hey, là, ça rentre, là. Juste reculons pour la CAQ.
Joignez le bateau. Vide.
La chaloupe à CAQ, pour dire à craque. J'adore ça. Oh, avec Christine Fréchette, on se répète. Coalition Avenir cul-de-sac. Puis, Men in CAQ.
Men in CAQ! Men ben in là, CAQ. Avec le petit machin que t'as oublié. Bravo. Ouais.
Écris-nous ton nom. Tu vas être le gagnant du slogan de la CAQ.
Oui, c'est
Men
ça.
In CAQ. C'est le slogan que ça prend. On va envoyer ça à Christine Fréchette. C'est écœurant. Kevin qui suggère que Mesmer pourrait être candidat dans une circonscription pour la CAQ. J'adore ça. Maintenant, QS, parce que là, hey, nos amis de QS, ils ont...
D'habitude, j'aime bien leur slogan, je vais vous dire, et j'aime bien leurs affiches. Moi, c'est ça, c'est moins... Je suis pas le public cible de ça, mais quand je suis capable de mettre à la place de l'auditoire à qui ils s'adressent, je trouve qu'ils sont créatifs, qu'ils ont eu des belles affiches dans les dernières années. Je me rappelle, en 2018, c'était populaire, je crois, le slogan.
Oui, c'est des slogans juste d'un
c'est court,
mot.
Ouais.
Exactement.
Mais tu sais, ça fait partie de leur force. Hein. C'est un parti de jeunes. Fait que c'est ça, ils sont bons, ces plateformes de médias sociaux. Ils sont bons dans le marketing qui s'adresse aux jeunes. Mm-hmm. Donc, j'ai bien hâte de voir leur slogan. Sinon, moi, j'ai ma suggestion que je leur fais, très en lien avec ce dont ils nous parlent depuis 4 ans. Ouais. Free Palestine.
Oui, j'avoue.
C'est proche des enjeux québécois.
Ça va vraiment attirer. Pour QS, qu'est-ce qu'on a par texto? Qui sommes-nous?
Un slogan sous forme de question, tu sais.
Ouais, ben justement, il y a quelqu'un qui suggérait tantôt « On existe ». Comme slogan de Québec solidaire.
Vers un Québec solitaire.
Ouais,
j'aime bien. Moi, j'ai pensé à toi en plus, puis je leur ai trouvé la toune à Québec solidaire.
Yes!
Ouais, vous allez
d'allumer ton sang.
Non, j'oublie pas de checker bien ça.
Je suis celui qui regarde en avant.
Toujours vivant.
Yes!
Je suis celui
Il ressemblerait le bon vieux Jerry. C'est ça, hein?
Je suis celui qui frappe dans la vie.
Ça serait rassemblant, par exemple, mais là, je suis en train de penser, François Legault ne l'avait pas utilisé, ça, en arrivant à un de ses congrès.
Non, c'était Rocky, non?
Ouais, Rocky, mais je pensais qu'il avait utilisé aussi cette toune-là.
C'est son genre. Moi, je pense que ça va résonner davantage auprès de l'électorat de la CAQ, mon chef.
Non, t'as raison. Donc, ça serait pas bon. J'avais comme slogan pour QS « Gauche ou gauche ».
Ouais. Gauche ou plus à gauche?
Ouais, c'est ça. T'sais, gauche ou gauche, dans le fond, il n'y a pas de droite. On tourne. On tourne, mais c'est ça. Et j'avais aussi...
On a raison, ou moralement supérieur aussi, qui aurait été...
Ouais, ça aurait été bon, en effet, pour QS. Et j'avais également pensé à féministe sauf pour Boulris. Ça, je l'aimais, parce qu'il rime en plus.
En plus, ça rime, c'est bon. Ben, là, vu qu'on se fout de la gueule de QS puis de la CAQ, il faudrait quand même de faire des blagues aussi avec les autres, là, je pense. Là.
Ah, Québec solidaire, du kombucha dans toutes les fontaines publiques.
Mais j'adore le kombucha, moi.
Ouais, c'est bon, ça, bon.
Je vais voter pour QS.
QS pourrait être gagné comme ça en tout. Là.
Ben, écoutez, c'est fort simple. 418-971-1021, foutez-vous de la gueule du PCQ, du PLQ puis du PQ aussi en proposant des slogans, ça va nous faire plaisir. T'avais-tu pensé à une joke, toi, Anto?
Non, pas en tout. Là. Je demande aux auditeurs, j'ai pas d'inspiration. Je les trouve pas drôles, PSPP, puis dans une joke. Aucune blague qui me vient.
Allez-y par texto 418-971-1021, laissez aller votre inspiration. En attendant, on n'a pas le choix, Anto, il faut parler un peu de cette guerre tarifaire. D'après moi, Christine Fréchette s'est fait parler dans le casse un matin parce qu'hier soir, elle est sortie en disant « j'ai pas mes réponses, je sais pas ce que je vais faire ». Puis là, aujourd'hui, elle a dit « on est tous avec Mark Carney ».
Bien, ils ont sûrement eu un appel, mais dans le fond, ce que Christine Fréchette disait hier, malgré ton imitation, ma foi, très flatteuse, c'est que dans le fond, le fédéral va demander aux provinces de faire certaines choses, notamment de remettre l'alcool américain sur les tablettes. On sait que ça fait très mal aux Américains, ça les a piqués au vif, cette affaire-là, ce qui veut dire qu'à quelque part, bien, ça a un impact quand même. Mm-hmm. Mais c'est pas Mark Carney qui décide si on met de l'alcool sur les tablettes, parce que
non.
Les différentes sociétés qui gèrent l'alcool dans les provinces, bien, c'est des réglementations qui sont provinciales. Donc, je pense que c'est normal que Mme Fréchette, avant de dire « Ah ben oui, on va le faire », surtout quand tu es le Québec, que tu dis nationaliste puis que tu dis autonomiste, sans savoir qu'est-ce qu'on va demander en échange.
Je suis d'accord. Donc, est-ce que c'est la preuve, cette négociation de tarifs-là? Et là, je ne veux pas faire un indépendantiste de moi, même si hier, j'ai dit que j'étais prêt à aller pour le PQ dans Tachereau, mais que les auditeurs m'ont retenu au micro de Boulevard 102.1. Ça prouve, par exemple, que le gouvernement fédéral est de plus en plus centraliste.
Bien, dans un moment de crise externe, donc quand on a un adversaire extérieur, c'est normal qu'il y ait une espèce de regroupement autour du drapeau, qu'on appelle. C'est une mauvaise traduction de « rally around the flag ». Quand on est une fédération comme le Canada, dans laquelle tu as en plus une autre nation, le Québec, ça devient un petit peu plus compliqué. Pendant plus d'un an, là, maintenant, les enjeux nationalistes du Québec, là, ils ont été mis sur la tablette. Là. Ça a été mis beaucoup sur la glace. Les Québécois soutenaient pour beaucoup, là, une grande partie de la population, Mark Carney, mais ça finit toujours par revenir. Moi, ça me fait rire quand les gens disent « Ah, passez donc à autre chose, les souverainistes. » Ben non,
non.
Ça n'arrêtera jamais. Ce sont des divisions qui existent et qui vont continuer d'exister. Donc, pour Mark Carney, présentement, il ne peut pas commencer à donner des ordres aux provinces parce que, oui, il faut qu'il négocie avec les Américains. Oui, il va falloir qu'il fasse des concessions, on s'en doute, même si ça ne sera pas très populaire. Mais de l'autre côté, c'est pas lui qui a les mains sur le volant.
En effet.
Puis s'il commence à se pogner avec les premiers ministres des provinces, tu comprends que ça peut se mettre à se détricoter assez rapidement, là, cette affaire-là. Déjà que faire plaisir à l'Ouest canadien versus l'Ontario versus le Québec, c'est déjà d'une grande complexité. Les libéraux sont traditionnellement très centralisateurs. C'est pas nouveau. Ça a toujours été un problème. Puis à chaque fois que les conservateurs sont au pouvoir, ils lâchent un peu de l'est, puis souvent moins de tensions constitutionnelles et de juridiction. Mais les libéraux, c'est un grand classique. Mais là, on ajoute une couche à ça parce qu'on a cette négociation avec les États-Unis. Quand c'est ton secteur dans ta province à toi qui est affecté par les concessions qui ont été faites, bien évidemment, c'est plus difficile d'avoir une vision globale. Tu sais, Doug Ford, on l'a appelé Capitaine Canada. Il n'y a rien de plus faux. Doug Ford, c'est Capitaine Ontario. Il défend ses industries
en
à
effet.
Lui. Puis lui, c'est l'industrie automobile, notamment, qui est une priorité pour lui. Je vais te dire, là, les particularités culturelles du Québec, là, il s'en fout pas mal.
Lui, c'est son secteur de l'automobile.
Puis moi, j'entends que c'est là que les concessions vont se trouver beaucoup, qu'on ne touche pas à la gestion de l'offre selon ce qu'on entend. Là. Puis Mathias a fait un bon résumé tantôt, mais qu'il y aurait des concessions faites sur nos lois qui touchent le numérique. Vous savez que les GAFAM ont une influence très, très forte sur Donald Trump. Ça fait maintenant quelques années que les nouvelles sont bloquées sur Meta parce qu'on avait essayé de passer une législation dans laquelle on obligeait les grandes plateformes à donner des redevances qui seraient versées aux médias pour l'utilisation de leur contenu. Et Meta avait répondu en disant « Parfait, on n'en mettra plus de nouvelles sur nos plateformes. Comme ça, on ne va pas vous payer puis manger toute la colle. » Et cette situation-là dure depuis ce temps-là. Si un recul sur le désir ou l'intention du Canada de faire charger des redevances aux grandes plateformes, bien peut-être qu'on va voir un retour des nouvelles sur les plateformes de Meta.
En effet. Donc, ça va être à suivre. Bref, on devrait avoir encore plus d'informations qui vont suivre cet après-midi, demain. On va vous tenir au courant sur les ondes de Boulevard 102.1. On a des excellents slogans qui sont rentrés un peu pour tout le monde. Pour le PQ, l'indépendance d'abord, les détails financiers plus tard.
C'est très bon.
Je l'aime.
Il y a Trump dégage pour le PQ.
Oui, exactement. PCQ, faire de la politique dans les bouchons sur le pont.
Ben oui. Pogné sur le pont.
Exactement. J'adore ça. Par la suite, on a pour la CAQ, bâtir le Québec, un bug informatique à la fois.
Bon, là, à la défense de la CAQ, tous les partis ont été poches en informatique depuis le début de l'histoire de ce gouvernement du Québec.
Et pour le PLQ, libéraux de nouveau, on promet qu'on a vraiment changé.
C'est bon ça, bravo.
Tu sais, le PCQ, ça pourrait être pogné sur l'île au lieu du pont.
Ah!
Ouais!
Transférons le trafic.
Exactement.
C'est vrai, ça. Des camions lourds sur l'île. Wow! Ah, ce
troisième... Et tout ça en coupant 47 milliards de dollars. J'aimerais vous le rappeler.
Ce troisième lien à une voix qui passe.
Je pense
par
que pour
l'île.
Le PCQ, watch out notre cadre financier, ce serait bon aussi.
Ouais. Mais y a-tu pas plus farfelu que le projet du troisième lien du PCQ? Ils ont réussi à battre la CAQ dans leur folie. Mais... T'es la CAQ avec le plus gros tunnel au monde, le, sur deux bitume, étages, là,
avec
le
des
bitume,
lumières,
puis
tout,
de
la
là.
Musique, ouais.
T'sais, dans le pire des cas, au pire, la CAQ, Kevin a quand même donné une belle porte de sortie à la CAQ pour se reprendre pour le troisième lien. Ils ont besoin d'un nouveau ministre des Transports. Présente Mesmer, ministre des Transports, on va
et
tout
voilà!
oublier ce qui s'est passé.
Troisième lien
c'est
arrive.
Réglé.
Hey, parlant du ministre des Transports, Benoît Charrette a décidé de quitter l'équipe Christine Fréchette. Et là, la rumeur... Ben, c'est dans le futur. Et là, la rumeur veut que Simon Jolin Barrette, ça ait tenté de représenter la CAQ, mais pas l'équipe Christine Fréchette.
Peut-être. J'ai pas mal de sources qui m'indiquent qu'il sera en réflexion, qu'il consulte des gens autour de lui pour savoir s'il devrait se représenter. J'aimerais vous rappeler qu'on est à 7 jours du déclenchement.
Bien, c'est ça. C'est un peu tard pour des gens qui avaient dit « Nomme-moi ministre et je vais me présenter aux élections. »
Bien, ça, c'est l'autre affaire. Parce que pourquoi... Il y a comme une couche supplémentaire au départ de Jean Boulay, de Mathieu Lacombe, de Benoît Charrette
oui.
et... peut-être, de Simon-Jolin Barrette, la décision ne serait pas prise, selon mm-hmm. ce que j'entends. C'est que c'était une des conditions pour être au Conseil des ministres
ben
le printemps
oui.
dernier par Christine Fréchette, c'était de s'engager à mm-hmm. se représenter. Dans la vie, les choses peuvent changer, c'est correct. Mais c'est vraiment pas un service à rendre. Et Benoît Charrette, je pense que c'est pas un game changer qui s'en
non,
a,
en effet.
C'est chien, mais c'est pas un game changer. Simon-Jolin Barrette, ça fait mal.
Ça affaiblirait la CAQ. Est-ce que, je te pose la question, Mathieu Lacombe, il avait dit « Je vais tuer au référendum », Benoît Charrette venait du PQ, Simon-Jolin Barrette, on le connaît aussi pour être très nationaliste. Sur l'aile nationaliste qui est en train de sacrer son camp parce que Bernard a perdu?
Bien, on peut voir une certaine tendance, mais il y a des nationalistes qui sont restés, puis il y en a des fédéralistes qui s'en vont aussi. Je pense que la ligne conductrice, c'est davantage sur où se trouve ta loyauté, puis quel est ton ensemble de valeurs qui t'ont amené en politique. Il y a des gens qui vont en politique pour des raisons opportunistes.
Mm-hmm.
Ben dans ce temps-là, quand l'opportunité n'est plus présente, ben ils sacent leur camp.
Oui, c'est ça.
Fait qu'il y en a une partie que c'est ça. Ils ont été recrutés. C'était pas pour faire un projet politique très, très précis. Ils voulaient essayer ça de faire de la politique. Bon, il y a ceux-là. Après ça, il y a les gens qui étaient entourant Bernard Drainville dans la course à la direction, qui ne se retrouve pas dans l'approche de Christine Fréchette, qui est en train de recruter des candidats, qui a des gens qui trouvent que c'est pas assez à droite, que c'est mm-hmm. pas assez identitaire. Bon, il y a tout ça. Puis j'ai l'impression qu'effectivement, il y en a qui se reconnaissent pas. Benoît Charrette, je pense pas que c'est ça.
OK. Parce qu'il avait été au PQ, c'est pour ça que je pose la question.
Oui, mais ça fait longtemps. Puis le PQ, tu sais, quand tu quittes le PQ comme un transfuge, je peux te dire que t'en manges une tabarnane. Fait que je suis pas sûre qu'il y a le PQ dans son cœur tant que ça, Benoît Charrette. Il a été identifié comme étant un traître à la nation. Alors, c'est comme ça pour lui. Je pense qu'il en a fait assez. Je pense qu'il y en a eu assez. Puis que sa décision est arrivée juste trop tard. Honnêtement, s'il avait annoncé au printemps qu'il ne se représentait pas,
ça n'aurait rien changé.
Ça n'aurait rien changé.
En effet, on termine avec Marie-Claude Sarrazin, procureure vedette de la commission Galant, qui vient d'être officialisée avec le Parti québécois. Méchante équipe qu'on est en train de se monter du côté de PSPP. Là.
Non, mais puis, je veux dire, ils nous mitraillent de candidatures et d'annonces. Parce qu'il y a des annonces sur le contenu aussi. Je commence à me demander s'il va leur rester des munitions pour la campagne.
En effet.
Mais je pense que oui. Je pense qu'ils sont capables de calculer leurs munitions. Eux, ce qu'ils spinent, c'est que c'est leur Sonia Lebel. Donc, ils ont trouvé leur Sonia Lebel, qui vont la présenter dans Grou. Qui est le député de Grou, te rappelles-tu?
C'était Gabriel Nadeau-Dubois. Non, Grou, non. Hey, non.
C'est Éric Girard.
Oh, le ministre des Finances!
Le ministre des Finances, qui, lui, selon toute vraisemblance, se présente de nouveau. Donc, on envoie quelqu'un. On a comme spiné ça en disant que ce serait quelqu'un qui ferait du ménage dans les finances publiques, notamment. Donc, on la présente contre qui?
Contre
Éric
Girard, qui a été sûrement un des pires ministres des Finances de l'histoire du Québec.
Je suis en désaccord avec toi.
Je le sais, tu vas toujours être en désaccord avec moi là-dessus, mais moi, quand les déficits records arrivent avec le même homme qui est là depuis 8 ans... Ouf! Quoique, peut-être que François Legault...
On contrôle pas tout dans l'économie.
Ça.
Je vous dis pas que tout était parfait non plus, mais je pense qu'on a connu pire.
Antonine Iaccarini, toujours un bonheur.
Merci.
Comme d'habitude, tu es absente le vendredi. Ça va être Étienne-Alexandre Beauregard qui va être là demain, midi 30. Et nous, on se reparle lundi.
Bye-bye.
Bon long week-end. Petite pause. France-Hélène Duranceau, la présidente, justement, du Conseil du Trésor, sera avec nous. Elle va nous parler de la CAQ qui a coupé 5 000 postes, 5 000 employés à temps complet depuis, justement, la dernière année. Puis elle va nous parler du plan futur. Si jamais équipe Christine Fréchette prenait le pouvoir au Québec. Émission d'En jase de ton jeudi 20 août. Il est présentement 13h02. On va recevoir France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor. Mais avant, Mathias, il y avait un accident sur le pont Pierre-Laporte. Est-ce que c'est réglé?
Oui, c'est réglé. Il y a encore un léger ralentissement là, pour accéder au pont, surtout présent sur Duplessis en direction sud pour le moment. J'en profite pour vous mentionner capteur direction est entre Pierre-Bertin et boulevard Neuvias, c'est au rouge. Laurentienne direction sud, quand même pas mal d'attente pour accéder à Capitale. Sur la rive sud, maintenant 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, comme à l'habitude, c'est difficile. Même chose pour Guillaume Couture, direction ouest, auteur chemin du fleuve.
Je remercie Chantal, une nouvelle auditrice qui dit « Super, j'aime votre émission. Je t'ai informé de ma ville et non de Montréal. Vous faites la job. Bienvenue aux nouveaux auditeurs, nouvelle auditrice. Puis n'hésitez pas à nous donner vos commentaires au 418-971-1021. La CAQ a coupé 5000 postes à temps complet depuis la dernière année de son mandat. Celle qui s'était vue donner le mandat de le faire en se faisant appeler maladroitement par François Legault, Cruella, là, hein, on s'en rappelle, a réussi à faire le travail. Elle est au bout du fil. France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor. Madame Duranceau, je ne vous appellerai pas Cruella. Ne vous inquiétez pas.
Écoutez, bonjour, M. Fortin. Ben, Cruella qui a fait les choses très délicatement, je vous dis.
Ben, c'est ça, exactement. Hein? Moi, j'ai une question. Avant qu'on parle des employés à temps complet, j'ai vraiment une question importante pour vous parce que là, je me demande comment je dois nommer les choses. Quand je parle des 8 dernières années, je parle de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Mais là, est-ce que je peux encore utiliser le mot Coalition Avenir Québec ou je dois utiliser le terme équipe Christine Fréchette?
Je pense qu'on est encore une coalition. C'est la coalition, mais c'est l'équipe Christine Fréchette. Il y a un nouveau ton, nouvelle approche, nouvelle façon de faire. Alors, je pense que c'est important de le faire ressortir, d'où le nom équipe Christine Fréchette.
Vous avez coupé 5000 postes à temps complet. Comment avez-vous réussi ceci?
On a réussi ça de manière très calculée. Et chirurgical, je l'ai dit quand j'ai annoncé ça à l'automne dernier, je dis, on va faire ça là, de manière organisée pour que ce soit durable, puis qu'on n'arrive pas avec une tronçonneuse, puis qu'on ébranle tout le monde, puis surtout qu'on ébranle les services publics. On a dit, on va avoir une approche structurée. Alors, comment on a fait ça? Gel d'embauche, donc, et gel de recrutement. Alors, on ne remplaçait pas des postes qui se libéraient. Ensuite, on a démarré tout ça dans le contexte d'un grand chantier de l'efficacité de l'État. Mm-hmm. Alors, on revoit nos façons de faire. On laisse tomber des éléments de bureaucratie pour que les gens travaillent sur ce qui a un impact pour les citoyens au lieu de faire de la reddition de comptes entre ministères puis à l'interne. Alors, tout ça, bien, ça libère des heures puis ça fait en sorte que soit qu'on n'en a plus besoin ou bien on travaille sur autre chose. Alors, ça fait partie de l'approche. Puis l'autre élément, c'est l'aménagement du temps de travail. Il y a des gens qui ont dit, ben moi, au lieu de travailler 37h30, je vais travailler 32 heures semaine sur X nombre de jours, sur 4 jours au lieu de 5, disons. Et ça aussi, ça a contribué à réduire le nombre d'heures. Alors, on visait de réduire de 5000 ETC d'ici au 31 mars 2027. Et finalement, on a atteint la cible en avril 26. Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Il y a un objectif d'un autre 3 000 dans les prochaines années, tout ça dans un contexte de retour à l'équilibre budgétaire, puis dans un contexte aussi d'intégration de l'intelligence artificielle, puis de faire les choses différemment. Alors, vous voyez, on fait ça de manière précise et chirurgicale.
De manière structurée. Justement, vous parlez du contexte du retour à l'équilibre budgétaire. La vérificatrice générale est sortie cette semaine disant que c'est un 5 milliards qu'on devrait trouver. Éric Girard, le ministre des Finances, a dit « Bon, je suis pas trop d'accord. Voici comment j'ai calculé mes choses. » Mais que ça soit 2, 3, 4 ou 5 milliards, vous êtes président du Conseil du Trésor. Où la CAQ va aller piger cet argent-là?
Mais alors, c'était pas une grande nouvelle, là, ça, cette semaine. C'était déjà étayé dans notre dernier budget. Donc, quand il y a un plan de retour à l'équilibre budgétaire, on indique à chaque année quelles seront les sommes qui devront être retranchées des dépenses pour arriver à l'équilibre. Alors, comment on va faire ça? Bien, on revoit l'ensemble des programmes. Il y a peut-être des programmes. Des programmes, c'est la manière dont on distribue l'argent, là, des subventions. Il y a peut-être des choses qui n'atteignent pas les objectifs recherchés. Alors, on va revoir ça, puis recadrer ou redistribuer autrement et différemment. On a notre chantier d'efficacité de l'État. On vise à réduire de 16. Actuellement, là, les services administratifs dans l'État, ça représente 16,7 % des salaires.
Okay.
Alors, on veut faire passer ça de 16 à 12 % puis à 10 %. Donc, moins de personnel administratif, moins d'individus qui gèrent des équipes. Donc, pour focusser davantage...
J'aime ça, ça me parle, parce que j'ai toujours l'impression qu'on coupe les gens qui sont sur le terrain, qui offrent le service.
Non, pas du tout. Toute la démarche là, se veut sans qu'on touche aux services aux citoyens. Puis on va les améliorer, les services aux citoyens, en changeant la culture à l'interne, en adoptant des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'être plus rapides, plus efficaces, puis de permettre aux fonctionnaires qui répondent aux citoyens d'être plus dans l'analyse, dans l'humain que dans la paperasse puis la bureaucratie. Alors, c'est bien organisé, puis je vous dirais que surtout, il y a une adhésion de la fonction publique à ça. Parce que c'est des humains, là. On parle des fonctionnaires, mais c'est des humains, là, en arrière de ça, qui on va changer leur façon de travailler, leur façon de faire. Alors, il faut qu'ils soient partie prenante au changement, puis qu'ils y adhèrent. Puis je pense qu'on a réussi à établir ça, ce climat de confiance où les gens voient qu'on n'est pas rentré avec la tronçonneuse, on rentre d'une manière qui est compréhensible, puis que les gens voient où on s'en va. Puis ça va amener des bénéfices. Autre exemple, c'est le nombre de choses qu'on garde en inventaire dans le gouvernement. Des vieilles chaises, des vieux paravents, des classeurs. Bien, tout ça, tout le monde entrepose ça un peu partout,
ouais,
selon ses critères. On est en train de tout consolider ça pour garder ce qui restera utile. Revendre ou disposer de
l'exemple. Ah, ben là, ça, il y a plein d'organismes communautaires qui en cherchent des classeurs, des paravents puis des bureaux. Envoyez-moi ça, là, ça va être parfait.
Voilà. Puis pour tout vous dire, en fait, il faut même payer dans certains cas pour en disposer parce que des choses sont tellement désuètes que personne n'en veut, mais ça fait partie de l'exercice. Alors vraiment, on lève toutes les pierres. Puis comme je vous dis, on fait ça de manière structurée, intelligente et rassurante pour autant pour les fonctionnaires que la population, tant qu'à moi.
Oui, bien on parlait justement, je vous écoute parler, puis on parlait du rapport de la vérificatrice générale. L'annonce de la fin du jet d'embauche survient quand même un peu après la comparaison de la VG qu'elle a fait avec les années Couillard sur vos coupures. On a, tu sais, veux pas, il y a un lien qui s'est créé avec l'austérité. Est-ce qu'il y a un objectif dans votre annonce d'aujourd'hui de redorer un peu l'image de votre réduction de l'État?
Bien, écoutez, je vous dirais que là, on est évidemment à la veille d'une campagne électorale, mais c'est surtout que l'objectif est atteint. Alors, je pense que c'est une annonce qui mérite d'être soulignée. Puis encore, comme je le dis, objectif atteint d'une façon structurée, intelligente et pérenne. Donc, c'est ce qu'on voulait souligner.
Mais est-ce qu'il y a quand même un objectif d'envoyer un message aux Québécois de dire « Ah non, on ne veut pas faire de l'austérité, nous, on veut quand même être prudents? »
Bien, c'est moi, premièrement, de l'austérité, c'est quand il n'y a pas de croissance des dépenses, puis on a quand même un taux de croissance des dépenses qui est prévu là, de l'ordre de 4 % ou 2 points quelques, là, selon les ministères. Alors, il y a encore de la croissance des dépenses. Donc, ça, c'est pas de l'austérité. Moi, ce que je dis, c'est que on n'est pas arrivé avec des coupes paramétriques où on a dit à tout le monde, vous coupez. Et là, pour couper, ben au lieu de se regarder soi-même puis de couper dans le gras à l'intérieur des ministères, le réflexe facile, c'était de couper le service aux citoyens. C'est ce qui est arrivé dans les années Couillard puis qu'on a rattrapé quand on est arrivé en poste. Alors là, notre approche, nous, c'est de se regarder nous-mêmes, là, que l'État se regarde le nombril, fasse son ménage, puis de façon à réduire les dépenses de l'État puis à augmenter sa productivité.
Quelques questions en rafale pour vous pour terminer l'entrevue. La grève des ingénieurs, il se passe quoi? Est-ce qu'on est à la table des négociations?
Bien, on a une entente avec les ingénieurs. Il y a une entente qui a été proposée là, par le médiateur puis soumise aux ingénieurs. Et leur grève, ou en tout cas les moyens de pression, ont été levés en date de lundi.
Okay.
Lundi dernier, là, si je vais aller dans mes dates.
Hey, pas de problème.
Donc, ça, c'est réglé. Évidemment, on attend que les ingénieurs se prononcent, là, mais il y a une entente entre les parties.
Parfait. Pour ce qui est des paramédics, là, on reçoit un texto là-dessus avec « on doit régler la convention collective ». Ça, j'avais vu qu'il y avait une entente également. Est-ce qu'elle a été ratifiée?
Bien, il y a une entente qui avait été convenue entre les parties négociantes, donc entre nous et le syndicat qui représente notamment syndicat CSN, là, qui représente un des groupes d'ambulanciers. Et cette entente-là a été rejetée. Donc, nous sommes en discussion avec les parties négociantes en ce moment pour voir quelle sera la suite des choses.
OK, parfait. Donc, on reprend, autrement dit, là, malheureusement, le processus.
C'est ça. Les ingénieurs, c'est lundi le 17 août, donc c'était cette semaine-là.
Qui sont revenus.
Les moyens de pression ont été levés. Donc, les travaux se poursuivent et peuvent avancer.
On parlait avec la Commission de protection des malades la semaine dernière et il nous disait que seulement 6% des heures en rendez-vous pour la clientèle vulnérable est fait dans les heures qu'on appelle désagréables, c'est-à-dire après 15 heures ou la fin de semaine. Est-ce que vous avez l'impression de vous en être fait passer une petite vite par la Fédération des médecins et praticiens du Québec?
Non, ben on leur parle, là, contrairement à ce qui avait cours là, il y a un an, disons, on leur parle vraiment sur une base continue, puis on cherche des solutions ensemble. Alors, l'entente convenue avec eux là, visait à inscrire 180 000 personnes vulnérables. Alors, quand les médecins ont dit « je les inscris », bien évidemment, on s'attend à ce qu'ils les voient, puis on travaille avec la FMOQ pour voir s'il y a des lacunes à certains endroits, de voir comment on peut les aider. Mais c'est sûr qu'il reste du travail à faire du côté de la santé. Mais il y a une entente qui est très, très intéressante pour les Québécois. Il y a plus de 500 000 patients qui ont été pris en charge, dont 180 000 vulnérables. Il demeure encore que le service là, 811, option 3, quand il y a une problématique pour du sans-rendez-vous, ça, c'est encore là. Alors, il y a différentes façons là, d'être vu dans le milieu médical, mais il faut continuer de travailler sur une première ligne qui est plus rapide et qui permet de voir plus de monde pour désengorger après ça tout ce qui est hospitalier. Mais je vous dirais que s'il y a des problématiques, faut nous les soulever, faut que ça remonte soit aux équipes de comté, à la FMOQ, puis on le travaille ensemble pour y pallier.
Est-ce que vos coupeurs que vous parliez justement dans la paperasserie, plus dans l'administratif, s'appliquent aussi au système de la santé? Parce que je voyais 41 minutes de délai d'attente moyen plus élevé depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Ça, c'est signe que la première ligne ne fonctionne pas bien.
Bien, c'est signe surtout qu'on a pris un des éléments qui celui-là était négatif pour pouvoir commenter là-dessus. Là. Il y a quand même moins...
Oui, mais quand même, c'est important pour les gens.
Oui, oui, mais il y a plusieurs indicateurs. Moi, je pense que Santé Québec, c'est un outil pour justement être plus efficace. Vous savez, le ministère de la Santé là, n'avait pas de budget qu'il suivait de manière rigoureuse. Avant l'arrivée de Santé Québec. Là, Santé Québec, depuis le mois d'août 2025, est vraiment en ligne avec son budget à chaque mois. Et pour y arriver, ben, ils doivent être plus efficaces. Donc, il y a des efficacités à aller chercher dans le système. Donc, oui, de leur côté, il y a des choix à faire. Il y a de la bureaucratie à enlever pour se concentrer sur les soins aux patients. Alors, on a vraiment une administration des gens là, qui sont compétents, on a consolidé des compétences à un seul endroit, puis on peut partager justement ces compétences-là entre les différents établissements. Exemple, des couvertures pendant l'été, parce que tout le monde est en vacances dans un hôpital sur la Côte-Nord, bien, les équipes se mettent ensemble, puis on envoie l'équipe, une équipe volante pour aider. Cette meilleure façon de travailler en collaboration entre tous les établissements a des impacts réels sur le terrain. Alors, oui, on peut sortir un indicateur qui est moins positif, mais on en a un paquet d'autres qui sont tout à fait dans la bonne direction. Je pense que Santé Québec en fait bien la promotion par ailleurs.
En terminant, Benoît Charrette a quitté hier. Est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections? Me le confirmez-vous ici en nombre?
Bien, je vous le confirme. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai confirmé ça.
Oui, mais il y en a plein de vos collègues qui l'avaient confirmé et qui sont partis. Ouais, on ne sait plus.
Le 7 juillet dernier, dans mon comté, j'ai dit que je voulais poursuivre. Moi, je pense que c'est important d'avoir un gouvernement qui est solide sur le plan économique dans le contexte actuel, puis un gouvernement qui ne nous place pas dans une position d'incertitude économique. Donc, actuellement, l'option référendaire, c'est nous précipiter dans une abysse et je pense que ce serait très néfaste reste pour les Québécois à court, moyen et long terme. Alors moi, je vais me battre pour que notre gouvernement soit de retour au mois d'octobre pour qu'on puisse continuer à améliorer l'efficacité de l'État comme je le fais depuis presque un an maintenant.
France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. C'est très apprécié.
Bien, merci pour votre intérêt. Au plaisir.
Merci. Passez une belle fin de journée. France-Hélène Duranceau, qui est aussi ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité. Moses, que c'est plate, c'est 8 ans trop tard.
De couper ça?
Oui, c'est 8 ans trop tard, la CAQ. Parce que, tu sais, honnêtement, de la façon qu'elle nous l'explique et de la façon qu'ils l'ont fait, c'est vrai que ça a l'adhésion syndicale. C'est vrai que ça se fait bien. Il n'y a pas, tu sais, de grands mouvements contestataires. Puis c'est vrai qu'il y a des résultats.
Ah ben,
mais c'est 8 ans trop tard.
Tu sais, il faut être honnête. Ça a été efficace en maudit. On a déjà coupé 5000 postes
ben
en
oui.
plein. Il y a eu la...
François Legault, l'objectif.
Ben c'est ça. Ben François Legault a donné la directive à l'automne dernier.
Exactement.
Ça fait même pas un an qu'on a cette directive-là. Déjà 5000 postes de coupé. Donc, ça, c'est la preuve parfaite qu'il y a moyen de le faire. Je pose la question aux auditeurs. On a coupé 5000 postes en moins d'un an. Avez-vous l'impression d'avoir moins de services? On n'en avait pas vu un an, puis on n'en a pas plus maintenant.
Exactement. Tu sais, là, ça, c'est un problème. Là, c'est d'améliorer le service. Tu as le bien beau balayer du revers de la main le délai d'attente dans les urgences. C'est une vraie donnée. C'est statistique.
Ah oui, ça, c'est certain.
Puis je vais le dire comme ça, là, c'est très dérangeant pour la population parce que c'est pas vrai qu'à l'heure actuelle, l'accès à la première ligne s'est amélioré. On en parlait la semaine dernière, puis j'ai posé une question à cet effet-là. Des heures jugées désagréables pour le médecin, mais agréables là, pour la population, où on a seulement 6 % de nos rendez-vous.
Ah,
là,
ça,
donc,
c'est une catastrophe, inacceptable.
Là. Exactement.
On est à la même place pour ça.
Exactement. Donc, j'ai bien aimé discuter avec Mme Duranceau. On voit qu'elle connaît bien son dossier, mais comme j'ai dit, malheureusement, moi, tu sais, ça vient trop tard, puis à l'heure actuelle, ben les actions trop tardives de la CAQ ne m'enchantent pas pour voter pour eux. Vous avez pensé quoi de cette entrevue? 418-971-1021.
C'est que sur 8 ans, initialement, la CAQ avait promis de réduire la taille de l'État. Là, c'est bien beau, on vient couper 5000 postes.
Mais sur 8 ans, ça allait augmenter.
On a ajouté 14 000 fonctionnaires. Fait que faites calcul, ça reste 9 000 fonctionnaires supplémentaires qu'on a depuis la CAQ.
Exactement. Les délais d'attente dans les urgences ont augmenté de 41 minutes depuis 2018. Et pourtant, la CAQ nous avait promis de les réduire. On en parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Après la pause, on va faire un petit retour aussi sur les négociations Canada-États-Unis.
L'équipe qui veut vous permettre de vous faire soigner au privé gratuitement sans avoir à attendre des mois pour un rendez-vous. On vous dit souvent qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais ce choix-là, c'est nous.
Par Patrice Raza, agent officiel.
Dès 18h, les grands feux Loto-Québec vous attendent à la place des Canotiers et au Quai Paquette. Ce soir, plongez dans l'univers Platinum Electro. Le fluo est à l'honneur. Sortez vos plus belles couleurs, créez votre bracelet personnalisé et laissez-vous emporter par une ambiance festive et électrisante. Nos DJ prendront le contrôle des platines pour vous faire danser au rythme des plus grands beats électro. Puis à 22h, place au spectacle pyro-musical. C'est gratuit. Programmation sur lesgrandsfeux.com. Les Grands Feux Loto-Québec, une invitation de Boulevard 102-1 et Week-end 91-9.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Tanguay l'entrepôt, c'est des trouvailles à très bas prix, comme nos magnifiques meubles en surplus d'inventaire offerts jusqu'à 70 % de rabais.
Tous ces meubles sont en trop?
Oui.
Ils sont bien trop beaux?
Trop pas cher à part de ça.
C'est bien trop vrai. J'achète.
Vendu! Tanguay l'entrepôt, ça vaut trop le coup.
Plongez dans Beast Casino, une expérience de jeu simple, rapide et immersive. Avec plus de 4400 titres, des machines à sous haut de gamme, des jeux en direct, une interface fluide et un vrai casino en direct animé par des croupiers et propulsé par Pragmatic Play Live. Visitez notre lobby de jeux pour des classiques intemporels ainsi que des nouveautés. Beast Casino offre un divertissement continu avec une sécurité de niveau professionnel. Des conditions s'appliquent, ouvertes à tous les joueurs, 18 ans et plus. Ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Découvrez l'énergie et la discipline avec l'Association régionale de taekwondo de la capitale nationale. Défiez vos limites, gagnez en confiance et rejoignez une communauté passionnée dans les clubs de la région de Québec. Enfants, ados, adultes, le taekwondo, c'est pour tous. Détails au artcn.ca.
Du 10 au 12 septembre, en collaboration avec Molson Export, le festival Envolé Macadam t'attend.
Avec Bad Religion,
Hatebreed,
Teenage Bottle Rocket,
Satanic Surfers,
Les Ghouls,
Horloge Simard,
Despised Icon,
Vader,
DVTR,
Mute,
Guttermouth et plus de 30 bandes qui se produiront au centre-ville de Québec et l'Agora du port de Québec. Le festival Envolé Macadam, du 10 au 12 septembre.
Si vous entendez ça, c'est que l'événement Liquidation Nissan est commencé. Et pas de stress, là, mais c'est le temps d'en profiter. Les Nissan Rogue 2026, VUS numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power, doivent partir. Obtenez 0% de financement jusqu'à 60 mois sur le Rogue S ou jusqu'à 13 500 $ en rabais à l'achat comptant sur le Rogue PHEV, incluant jusqu'à 3 500 $ en rabais gouvernementaux si admissible. Hé, hey, on avait dit pas de stress, non? Ah, passez chez votre concessionnaire Nissan dès aujourd'hui.
Sur à Boulevard 102.1.
Émission en jazz du jeudi 20 août. Jeudi 20 août, ça sonne avec quoi? Ça sonne avec Match Boulevard! Au capital de Québec, ce soir, il annonce pas de pluie, les amis. Seulement 30% de possibilité d'averse. C'est 24 degrés. Ça va être 9 degrés, par exemple, ce soir et cette nuit. Donc, amenez-vous une petite lème pour le match des capitales de Québec. Ça va nous faire plaisir de voir. Écoute, quand je regardais tantôt, Matt, tu devais rester à peu près 40 billets.
OK.
Fait que vous pouvez encore vous acheter un billet, mais faites vite. Demain, 24 degrés ensoleillé. Samedi, c'est 60% de possibilité d'averse avec un 22 degrés. Et par la suite, on aurait une petite séquence de pluie, mais ça reste à suivre. C'est à plus long terme. Mathias, est-ce qu'il y a encore notre accident sur notre premier lien?
Sur notre seul lien? Non, en fait, il y avait une panne un peu plus tôt sur le pont Pierre-Laporte en direction sud. Ça, c'est résorbé. Par contre, il y a encore un petit ralentissement quand même là, pour accéder au pont Pierre-Laporte en ce moment en direction sud. Vous mentionnez aussi capitale direction est entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuviaz, c'est au ralenti. Laurentien direction sud pour accéder à capitale, un peu d'attente aussi. Et maintenant, sur la rive sud, bon, ralentissement habituel, mais c'est très difficile pour le moment entre Taniata et ça remonte jusqu'à Monseigneur Bourget presque sur la 20 direction ouest. Et dans le secteur de Guillaume-Couture direction ouest, hauteur chemin du fleuve, très difficile pour le moment, là, ça remonte jusqu'à chemin des îles. S'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous texter 88-971-1021.
La Coalition Avenir Québec nous avait promis qu'elle allait s'attaquer au délai dans les urgences. Elle nous a promis ça lors de sa première élection et de sa deuxième en disant « Regardez-nous bien aller, vous allez attendre bien moins longtemps ». Dans un élan de génie, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a créé Santé Québec pour que Santé Québec s'occupe des opérations puis que ça aille mieux avec la première ligne. On a créé aussi le guichet d'accès unique qui fonctionne tellement bien que si tu ne prends pas ton rendez-vous à 5 heures le matin en te levant, tu n'en auras jamais. Ce qui fait en sorte que c'est une catastrophe et cette catastrophe-là a été mise à jour par l'Institut économique de Montréal aujourd'hui, alors que selon une étude de l'Institut économique de Montréal, le temps d'attente moyen dans les urgences a augmenté de 41 minutes depuis 2018. Pire encore, il y a un pavillon Albert Prévost à Montréal spécialisé en santé mentale. Mathias, t'attends combien de temps? 14h23.
Rien de moins.
Toi, t'as besoin, t'as des pensées noires. Va-t'en dans le petit coin pendant 15 heures.
Ouais, va faire une demi-journée, là.
T'es en psychose. Oh. Oh, attends.
Tu peux te le permettre,
attends,
je pense.
On va s'occuper de toi. Pour en parler avec nous, on a l'excellent analyste senior en politique, Gabriel Giga de l'Institut économique de Montréal. Gab, comment vas-tu?
Ça va super bien, bonjour à vous.
Good. Gab, est-ce que mon introduction est la bonne?
Oui, bien, la CAQ a avancé, là, a beaucoup avancé. Elle s'est juste trompée de direction. Juste ça. On a beaucoup augmenté les temps d'attente médians. Puis ce qu'on a vu la dernière année, puis ça, faut que je le souligne, ça a un petit peu baissé, mais sur le long terme, mm-hmm. depuis qu'on est arrivé, ça a augmenté. Puis ça, ben c'est dans la même dynamique où on a vu une explosion des dépenses. Tu sais, on s'est fait dire, on va faire des réformes. Nous, on investit en santé. Ouais. On est passé d'à peu près 40-45 milliards à plus de 65 milliards de dollars en quelques années. Donc, si la solution était plus d'argent dans le système, on serait rendu à 2 heures d'attente. Là. On comprend? Donc,
ben, c'est
pas ça qui s'est passé.
Non, c'est ça. La problématique, et puis, est-ce que je me trompe, c'est que, tu sais, puis là, moi, j'appelle ça les organigrammes, là, mais tantôt, France-Hélène Duranceau m'a donné le bon terme, c'est l'administratif. On investit énormément dans l'administratif, on investit énormément dans la gestion, dans les procédures. On n'investit pas pour des gens en surplus sur le terrain et ça donne ce résultat-là.
Ben oui, puis la dynamique du public, c'est ça part du haut puis ça va vers le bas. Ce qu'on a de besoin aujourd'hui, parce que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas le choix, parce ben oui. qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Tu as parlé de guichet unique, ils n'ont pas de médecin de famille. Il faut aussi dire une autre chose, là, insidieux, là, ma blonde le vit, là. T'es attribué à un GMF, donc on dit bon, ben t'es un médecin de famille, mais tu peux pas avoir de rendez-vous avant un mois. Mais tu fais quoi quand t'as un problème?
En effet.
Tu t'en vas aux urgences. Puis là, la réalité, c'est qu'on n'est pas comme en France où en France, il y a ce qu'on appelle un centre médical de soins immédiats, qui est l'équivalent d'urgence, mais pour les petits cas. Donc, évidemment, se casser le bras, c'est pas le fun, mais ça fait partie du P3. Donc, c'est pas ton pronostic vital n'est pas engagé essentiellement, comme si t'avais un gros accident. Puis là, évidemment, il faut que t'ailles un trauma, tu t'en vas à l'urgence, c'est normal. Mais là, il y a tous des bobos qui pourraient être réglés avec ce type d'approche-là, du bas vers le haut. Donc, c'est géré par le privé, mais c'est géré par des urgentologues, par des infirmières. C'est le chaînon manquant au Québec qui permettrait de désengorger les urgences au Québec, puis permettrait de donner une voie d'accès plus rapide. Malheureusement, on propose des gros organigrammes ou des administratifs, comme t'appelles ou comme Mme Duranceau l'appelle.
Ah oui. Mais t'as tellement raison, puis c'est tellement un bel exemple, la France, je trouve, que vous amenez l'Institut économique de Montréal, parce qu'on l'avait avant au Québec, puis on l'avait même de deux branches. On avait le CLSC pour des cas vraiment de priorité 5-6, exemple, je fais de l'eczéma, puis on avait des cliniques sans rendez-vous pour, hey, mon fils fait un peu trop de fièvre, puis des choses comme ça, mais on a tout foutu ça avec des cliniques de médecine familiale, puis qui fait en sorte qu'on dit qu'on offre du sans rendez-vous, mais c'est pas vrai, c'est sur rendez-vous. Fait que le mot sans rendez-vous n'existe plus au Québec.
Non, exact. Fait que ça, c'est vrai. Puis en plus de ça, notre centre médical de soins immédiats, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une gestion privée puis que c'est décentralisé, ben on est beaucoup plus agile sur le terrain plutôt que de dire, ben voici la réalité terrain, on va leur monter en haut, ça va redescendre après ça. Là, on le sait tout de suite, c'est des gens qui sont sur le terrain qui peuvent rapidement changer les choses. Et ce qu'on vient dire ici, essentiellement, à demi-mot, c'est de dire, ben on doit aller de l'avant avec ce qu'on appelle la pratique mixte, de permettre de travailler à la fois dans le public et à la fois dans le privé.
Ah,
aujourd'hui, JF, t'as pas le droit. Si tu travailles dans le privé, faut que tu te désaffilies. Mais les Québécois, on leur a demandé, Ipsos prend... En fait, Ipsos, on le sait, c'est une firme de sondage, a demandé aux Québécois, voulez-vous plus de privé dans la prestation de soins de service? T'as 2 Québécois sur 3 qui disent oui. Donc, la réalité, c'est que les Québécois ne sont pas en train d'essayer de se coller sur le modèle public de santé. Ce qu'ils veulent, c'est l'universalité. Ce qu'ils veulent, c'est d'aller à l'hôpital puis pas de payer une deuxième fois parce qu'on paye assez avec nos impôts. Et c'est ce que permet la pratique mixte. Malheureusement, le gouvernement redouble avec une surcentralisation comme avec des patentes administratives à la santé québécoise.
Hey, exactement. Moi, j'ai un rêve, justement, dans le domaine de la santé. Puis, tu sais, j'ai 2 rêves. Mon premier rêve, c'est que tu as l'hôpital public, tu as l'hôpital privé. Ceux qui veulent aller direct au privé puis payer, allez-y. Les autres sont rabattus sur le privé quand tu es au-delà du délai raisonnable. Mais les hôpitaux publics, là, ça devrait être géré comme au privé. On devrait tout décentraliser ça, nommer un directeur général d'hôpital, puis lui, il a des objectifs à atteindre. Son CA, c'est le ministère de la Santé. Puis si tu fais pas la job, mon homme, ciao, bye, on en met un autre parce qu'il faut que tu atteignes tes objectifs.
Ben, ce que tu dis, JF, ça existe essentiellement en Europe où ce que tu vas avoir, c'est des hôpitaux publics à gestion privée. Donc, c'est ultra intéressant, ça aussi, parce que ça te permet d'avoir une dynamique de concurrence. Tu as la majorité du temps du financement à l'acte. Donc, tu sais déjà combien tu fais d'argent par patient. Tu as l'incitation à réduire les coûts, mais tu as des standards à respecter, effectivement. Évidemment, donc, tu respectes le patient, tu deviens plus efficace, plus productif. La concurrence fait en sorte qu'il y a une boucle vertueuse vers l'amélioration globale. Et c'est nous, en tant que Québécois, qui pourrions gagner. Puis, il y a plusieurs éléments. Dans ce que tu as dit, le public, le privé pourrait être déboursé à même nos poches. Ça pourrait aussi être offert par le gouvernement du Québec aussi. Donc, ça serait juste avec une carte soleil. Après ça, notamment parce que le financement à l'acte, que ce soit privé ou public, le montant est identique. Donc, cette dynamique-là permettrait de ne pas faire payer plus cher au gouvernement, mais d'avoir plus de dynamisme et de soigner plus de Québécois à toute fin pratique. Donc, c'est des approches qui sont importantes à considérer. Et aujourd'hui, on commence à l'entendre, on ne l'entend pas assez. Parce qu'à la fin de la journée, le Québécois moyen ne veut pas avoir accès à une liste d'attente, mais à des soins de santé. Donc, si c'est d'arrimer le public et le privé comme on fait ailleurs dans le monde, ben, on doit juste être au diapason de ça.
En effet, présentement, il y a seulement le Parti conservateur du Québec qui en parle. C'est pas encore dans le jargon d'autres partis politiques. Moi, honnêtement, je me dis peut-être que le PQ va nous surprendre un peu parce que si on veut faire la souveraineté, à un moment donné, on pourra pas investir 66 milliards de dollars dans la santé.
Ben, c'est surtout que c'est le poste de dépense le plus gros. Là. Juste pour comprendre l'ordre de grandeur, tu prends tous les portefeuilles, la famille, la santé, l'éducation, name it, les transports en commun, c'est 42 % de tout ce qu'on dépense dans le portefeuille. Là. C'est énorme. Et donc, on le sait qu'avec le vieillissement de la population, la pression est très, très forte. Alors, il faut innover. On peut pas juste se dire, regarde, Gabriel, c'est pas grave. L'année prochaine, on rajoute un milliard. Mm-hmm. Puis d'attitude, on réglera pas le problème. Alors, ça prend des approches comme la pratique mixte.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. On parle avec Gabriel une fois par semaine, justement, de sujets très pertinents et d'études faites par l'Institut économique de Montréal. Gabriel, négociation Canada-États-Unis, est-ce que l'aura de Mark Carney est en train de disparaître?
Ben, le problème, c'est qu'on comprend pas trop. Là.
C'est ça, hein?
Parce que là, on est comme tout sur le qui-vive depuis une couple d'heures, une couple de jours. Là. On a le deal, on l'a presque. Est-ce qu'on l'a? Voici l'information. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'on se fait dire de rapporter les produits alcoolisés sur les tablettes dans les différentes provinces, notamment le Québec. On voit la première ministre Christine Fréchette nous expliquer que c'est au Québec de choisir. Quant à moi, on n'aurait jamais dû l'enlever puis laisser les Québécois choisir. Hein. De toute façon, il y a plusieurs Québécois qui n'en achèteraient pas. Ouais. Comme il n'y a pas d'interdiction d'aller aux États-Unis, mais quand on regarde les chiffres touristiques, on voit une baisse importante.
C'est une baisse de l'ordre de 30 à 35 % Saskatchewan et au Manitoba, je me souviens bien, eux qui ont gardé les alcools américains. Donc, en effet, c'est aux consommateurs à choisir.
C'est la première des choses. Ensuite de ça, je veux juste... Il y a un élément. Franchement, ça me purge d'entendre ça. C'est le théâtre politique depuis plusieurs jours, plusieurs semaines autour de la gestion de l'offre. On a l'impression qu'il y a une file, là, tu sais. Au primaire, il y a une queue, puis on attend là, pour rentrer dans l'école. Là, puis là, tu as tous les politiciens avec leur petite badge d'honneur. La gestion de l'offre, on va la défendre. Mais quand on revient à base, la gestion de l'offre, ça coûte plus cher aux Québécois, ça coûte plus cher aux consommateurs. Donc, j'ai l'impression que c'est surjoué, c'est comme un passage obligatoire, mais aujourd'hui, si on veut s'assurer de réduire la pression sur d'autres secteurs comme le bois d'œuf qui en arrache beaucoup, notamment au Saguenay, bien, il faut faire des concessions, puis cette concession-là, elle est gagnante-gagnante pour les Canadiens, les Québécois et les Américains.
Non, en effet, c'est comme dans une cage dorée, ça, la gestion de l'œuf. Faut que personne y touche, mais j'ai l'impression qu'on sacrifie beaucoup de pain de notre économie pour la gestion de l'œuf. Tu as parlé du bois d'œuf. L'aluminium aussi va encore avoir des tarifs. L'acier, c'est pas facile pour ces secteurs-là, puis c'est des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent à l'étranger, donc qui créent une économie forte au Canada.
Ça crée une économie forte. Si on prend l'aluminium, c'est pas la première fois, en fait, qu'il y a des tarifs douaniers sur l'acier par Donald Trump. Hein. Son premier mandat, il l'avait fait. Il a créé des emplois, il faut lui donner environ 2000 emplois aux États-Unis dans l'acier. Mm-hmm. Le problème, c'est comme tu augmentes le coût de l'intrant, ben, les manufacturiers qui vont transformer ça comme pour une porte de voiture, pour des matériels comme sur un avion, eux, ça leur coûte plus cher. Donc, ce qu'on a vu, c'est une baisse de plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans le secteur manufacturier qui utilise cette matière qui coûte plus cher. Parce qu'avant, s'il était 100 $ en Ontario, et 115 $ quand tu l'achètes des États-Unis, ben, naturellement, ça augmente tes coûts de production, tu as moins de personnes dans ta manufacture. Et ça, ça le nuit très, très clairement aux États-Unis. Donc, ça nuit aux États-Unis. Ça nuit aussi au Canada, on le voit, là, c'est très, très clair.
Ben oui.
Le Québec, d'ailleurs, dans la dernière année, a perdu beaucoup d'emplois. Donc, il faut mentionner quand même que ça nous fait mal, même si ça fait mal aussi aux Américains. Alors, des concessions seront nécessaires. Il ne faut pas juste avoir une posture en disant « nous, on ne fait pas de concessions ». Au final, là, je comprends que ce n'est pas le fun. C'est une question d'égo aussi, de dire ben, « le monsieur là, qui est un petit peu fatiguant au sud de la frontière, je le comprends ». Mais à un moment donné, c'est aussi une question économique. C'est des emplois, là, très concrètement. Donc, il va falloir faire la part des choses.
Il faut aller au-delà de la haine qu'on a de Donald Trump.
Absolument.
Tout simplement, c'est une... Puis il faut avoir une vision économique. Et il faut vraiment accepté de toucher à nos chasses gardées pour sauver notre économie. C'est carrément là qu'on est placé à l'heure actuelle, parce qu'on parlait avec Frédéric Boisvert, le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. C'est ce qu'il nous disait. Il disait, écoutez, c'est beau la diversification, mais pendant 5-10 ans, là, on va être pris dans un momentum économique très difficile. Fait qu'il faut accepter de revoir complètement notre modèle.
Il y a juste une chose que tout le monde doit comprendre. La diversification est importante, mais les États-Unis vont rester notre partenaire commercial principal. Clair. 360 millions de personnes, un énorme marché, riche, avec une proximité géographique. Ils s'en vont pas ailleurs, on s'en va pas ailleurs. C'est extrêmement clair. Donc, il faut faire des concessions, malheureusement. Puis, en fait, j'ai envie de dire heureusement si c'est la gestion de l'offre. Mais ça va être à suivre très certainement dans les prochaines heures, prochaines journées. Il y a également la possibilité d'un pipeline, hein, on s'en rappellera. Oui. Keystone Excel, ça va être aussi à suivre.
Gabriel Gigas, c'est toujours un bonheur de te parler. On se parle la semaine prochaine.
Bonheur partagé, à la semaine prochaine.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Je sais qu'on a plusieurs nouveaux auditeurs, puis on a des questions par texto. En effet, l'Institut économique de Montréal, c'est un institut qui est plus placé à droite au niveau politique, donc voit une économie de libre marché. Et pour ceux qui se joignent à nous à Boulevard 101, bien, sachez qu'à Boulevard 101, toutes les opinions sont les bienvenues. Pour ça qu'on a reçu un Sol Zanetti cette semaine, qu'on a un Gab Giguère comme chroniqueur, on veut vraiment se faire une tête en regardant l'ensemble du portrait et non pas juste avoir des œillères sur une façon de penser et de voir.
Puis ça reste que des chiffres qui sont présentés puis l'étude qui est faite, ça c'est fait de manière...
C'est factuel.
C'est ça, c'est factuel, c'est des faits qui sont présentés. La réalité, c'est l'économie en général.
Ouais.
Tu peux choisir quel axe que tu te concentres côté
Exactement.
Économique. Donc, peu importe quelle institution économique, tu vas toujours avoir des tendances d'un côté ou de l'autre.
Fred qui nous raconte par texto au 418-971-1001. Dans mon cas, j'ai un médecin de famille associé à un GMF universitaire. Quand j'ai un besoin urgent, j'ai un rendez-vous le lendemain avec un médecin externe. Fred, merci de nous partager le bon coup de ta clinique familiale. Franchement, tu es entre bonnes mains et on est très content de le savoir. Dernière pause du show. Par la suite, on vous fait le tour complet de l'actualité et des sports. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Vous êtes sur la route. Téléchargez l'application BLVD 102.1 disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store pour nous écouter. Émission On en jase qui tire à sa fin les 13h47. Le retour de Gravel qui va suivre à 14h jusqu'à 18h avec Denis Véro et Audrey Marceau le soir avec Claude Bernatchez. Va être disponible à compter de 18h sur nos ondes et on reprend demain matin avec Marceau le matin avec Mathias Turcotte en remplacement de Max Larouche. Catherine Saint-Laurent qui va arriver lundi prochain. Par la suite, le point de Max, ça sera Jeff Fortin avec Mathias Turcotte. Et on en jase, ça sera Jeff Fortin avec Mathias Turcotte.
Du gros changement dans
on
programmation
fait
entre
un
les 8 shows. 8
heures en ligne demain, c'est notre dernier marathon. Les renforts arrivent la semaine prochaine avec Catherine Saint-Laurent et notamment Nico Lacroix qui va être dans l'émission On en jase.
Si jamais certains d'entre vous en ce moment, ça vous tente de vous brancher à partir de 6 heures puis de faire le marathon
oui.
avec moi puis Jeff demain, n'hésitez pas à nous accompagner pendant ces 8 heures de radio. Là.
Exactement. Les Capitales de Québec jouent ce soir. C'est le match Boulevard. C'est à compter de 19h05. Max Larouche qui va faire le lancer protocolaire. Hier, ça a été une victoire éclatante de 16-2 des Capitales au Stade Canac contre les Miners de Sussex County. Il reste 15 matchs à la saison régulière. Les Caps ont 10 matchs d'avance sur Ottawa au premier rang de la section Nord. Donc, on peut dire que c'est pratiquement dans la poche. Jean de Québec, vous êtes des tripeux de sport. Vous me faites triper. Le 13 septembre prochain, le Centre Vidéotron va être sold out pour le match hors concours des Raptors
c'est fou, Red, ça.
De Toronto contre le Heat de Miami. Les billets sont vendus en quoi? 20 minutes? 30
ouais,
minutes?
Environ une vingtaine, une trentaine de minutes. Là, ben, t'sais, il restait des billets à 800$ là,
ouais,
en bas.
Ça,
là, mais au complet, c'était sold out en dedans de 30 minutes. Là.
Alors, chapeau, gang de Québec, de vous intéresser à tous les sports. Faites pratiquer plusieurs sports à vos enfants aussi. Le basketball, qui est le sport encore le plus populaire dans les écoles. Alors, ça paraît quand on voit un engouement comme ça. Les Jays de Toronto ont perdu 7-6 hier contre les Rays de Tampa Bay, ce qui fait en sorte que les Jays sont maintenant à un match des séries des Twins du Minnesota, à un demi-match du Texas. Mais Alejandro Kirk, le receveur des Jays, qui est en feu, c'est le meilleur frappeur du baseball majeur présentement. Il a encore frappé un circuit. C'est terminé à Cincinnati pour Félix Auger-Aliassime. Il s'est incliné en huitième de finale 3-6 et 4-6 contre Francis Tiafoe. Et la petite peste des remparts, Maverick Rousseau-Hamel, qui a reçu une excellente nouvelle. Il sera invité au camp des recrues du Canadien de Montréal. Félicitations à Maverick Rousseau-Hamel, qu'on va revoir dans l'uniforme des remparts. Les remparts qui visent rien de moins que la Coupe Gilles Courteau cette année.
Si jamais vous voulez vous acheter des billets pour la vente des Raptors puis vous êtes complètement passé à côté, il y a quand même beaucoup de billets là, en revente présentement. Là, je regarde sur les différents sites. Là, dans les sections 200, vous êtes capable de trouver des billets à 115-150 $. Là.
Mathias, on termine l'émission en actualité. Qu'est-ce qu'on doit suivre?
Oui, un blessé grave à la suite d'une collision entre une voiture et un camion dans le secteur de Saint-Gervais est survenu un peu plus tôt aujourd'hui, vers midi. Les deux, pour une raison qu'on ignore toujours, les deux véhicules qui sont rentrés en collision. Pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est justement que la femme à bord de la voiture, pour l'extirper, on a eu besoin des pinces et qu'elle est présentement gravement blessée. Le ministre Dominique Leblanc, responsable des négociations Canada-États-Unis, retourne à Washington aujourd'hui pour rencontrer le représentant au commerce Jamieson Greer. On le sait, on est dans la finalisation de l'entente entre le Canada et les États-Unis. Il reste 2 jours au sursis de 3 jours que Donald Trump avait accordé sur ses tarifs de 50%. Donc, on veut accélérer le tout. D'ailleurs, plus tôt aujourd'hui, Christine Fréchette, la première ministre du Québec, qui a reçu un appel du premier ministre Mark Carney à ce sujet-là. La première ministre qui disait avoir été éclairée sur certains points, certains enjeux. On a toutefois gardé le silence, puis on a voulu étudier davantage ce que cette entente comportait. J'en profite pour revenir sur ce qu'on sait pour le moment, là, rapidement. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium du côté américain baisseraient de 50% à 25%, sur taxes de l'automobile de 25% à 15%. Du côté canadien, on abandonnerait la restriction sur l'alcool américain et les contre-tarifs canadiens sur l'automobile. Le Parti québécois a annoncé aujourd'hui la candidature de la procureure de la commission Galant, Marie-Claude Sarrazin, dans la circonscription de Groulx. Le PQ qui mène présentement à 32% dans cette circonscription, contre ceux qui sont à la deuxième place, la CAQ à 28%. Et fait intéressant, elle sera face à Éric Girard, présentement ministre des Finances. On a présenté Marie-Claude Sarrazin comme étant une responsable qui permettra au PQ d'effectuer un ménage dans la fonction publique.
Ça va être une chaude lutte, mais avec cette adhésion-là de l'ex-procureur de la commission Galant, le PQ présentement qui est dans la marge d'erreur sur Québec 125 avec 32% contre 28% pour la CAQ. Je m'attends à voir un PQ l'emporter. Éric Girard inspire plus beaucoup la population, malheureusement pour lui.
L'agence Moody's a maintenu la cote de crédit de AA2 pour la ville de Québec. Une excellente nouvelle pour la ville. Le maire dit que ça annonce une perspective stable et une gestion fiscale saine. Le maire Marchand qui a quand même émis la nécessité d'avoir 13 000 nouveaux résidents permanents pour assurer le développement économique de la ville de Québec. Le Parti libéral du Québec qui lancera sa campagne électorale le 27 août prochain ici, dans la capitale nationale. Le Journal de Québec a même appris que le parti prévoit placer son quartier général, encore une fois, ici, dans la capitale nationale. Ça rajoute sur le fait que nous serons une région phare pour la prochaine élection.
Vraiment?
La CAQ qui a prévu y installer aussi son QG. On a par le fait même appris le slogan du Parti libéral pour l'élection à venir, « Rassembler, réparer et bâtir ». C'est le slogan qu'on va utiliser. J'en profite pour vous rappeler le slogan du Parti québécois, « Le choix de la confiance, celui des conservateurs osés pour vrai ». On attend toujours du côté de la CAQ et de Québec solidaire.
Non, t'as dit CAQ.
Hey, mon Dieu.
Christine Fréchette.
Hey, même moi, je me suis trompé.
On s'en va en élection avec équipe Christine Fréchette. Mathias.
La CAQ, c'est du passé.
La CAQ, c'est du passé. Si équipe Christine Fréchette est élue, c'est un nouveau parti, un nouveau gouvernement. Oublie les 8 ans de la CAQ que t'as pas aimé. C'est complètement un changement.
Penses-tu qu'on va changer le nom du parti de façon permanente si Christine Fréchette l'emporte?
Peut-être. Non, au provincial. On le voit au municipal, des fois, là, équipe, comme on l'avait avec équipe La Bombe. au provincial, je pense que ça serait très mal vu.
Et je termine justement avec Christine Fréchette qui a donné aujourd'hui sa longue entrevue dans le Journal de Québec à Rémi Nadeau. Elle y dit qu'elle priorisera les familles et les aînés dans son programme pour les prochaines élections. Elle en a d'ailleurs profité pour critiquer l'approche du chef conservateur Éric Duhaime en l'accusant de vouloir réduire l'autonomie des femmes. Elle pointe notamment une mesure qui viserait à financer les enfants directement au lieu des places en CPE. Éric Duhaime qui a répondu sur son Facebook au cours des dernières heures en disant que cette fameuse proposition de financer des enfants au lieu des places en CPE, eh bien, elle datait de l'époque adéquiste.
Exactement. Donc, c'est le but. Puis Maïté Blanchette-Vézin, je vous invite à aller réécouter l'entrevue au blvd.fm. Nous l'a bien expliqué ce matin. Le but, c'est pas de donner un coup de barre, un coup de hache dans les CPE ou les garderies subventionnées. C'est tout simplement de donner le choix aux parents. Donc, d'apporter le choix parce qu'on le sait, il y en a beaucoup de parents sur les listes d'attente. C'est au-dessus de 30 000 enfants présentement qui attendent une place dans un CPE. Donc, c'est de dire, regardez, on va vous donner une subvention par enfant et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir prendre la décision. Est-ce que c'est un des deux parents qui reste à la maison ou ça va vous donner des moyens financiers additionnels pour payer une garderie privée qui coûte là présentement, là, je pense que ça peut coûter un 50 à 70 $ par jour, là, ce qui est vraiment énorme pour une famille qui, rappelons-le, avec la hausse du coût de la vie.
Au moins, ça offre une alternative pour les familles.
Exactement. Donc, ce n'est pas de mettre la hache comme la CAQ tente de vous le faire croire. C'est déjà tout pour nous. On est de retour pour un marathon de 8 heures en ligne demain. Mathias et moi, sinon Denis Gravel s'amène avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Bon après-midi, guys.
Bonne journée.
Salut.